corps.
Tiens. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Discordia, c'est aussi des sagas, c'est aussi des suivis. On se retrouve avec Virgile. Comment ça va, Virgile ?
Ça va très bien, François, et toi ?
Écoute, ça va plutôt pas mal. On se retrouve plusieurs années après cet épisode.
Ouais, je suis curieux de savoir, je crois que la première, c'était juste avant la sortie de Jeannette, non ?
C'est ça.
Et c'est ça, donc ça remonte bien.
C'est ça.
Il y a eu des choses entre-temps.
Passer des choses. Mais ouais. Voilà, mon avis sur Bruno Dumont n'a absolument pas changé. Toi, t'étais complètement. Je t'avais laissé, t'étais sceptique sur le virage humoristique.
Ah, bah tout à fait, ouais.
Ouais.
Ça s'est d'ailleurs confirmé. Je crois que j'avais pas vu Malout au moment. Si, je sais plus. Non, je crois pas. Je pense que je l'avais pas encore vu quand on m'en a parlé.
Ouais.
Alors qu'il était sorti l'année précédente ou un truc comme ça. Bon, je l'ai vu depuis, ça m'a confirmé que. C'était pas son truc, quoi. J'ai pas vu Jeannette et Jeanne, figure-toi, en revanche.
D'accord.
Donc là-dessus, j'ai un peu sauté parce que faut avouer que même quand on aime Bruno Dumont, il y a des projets qui font peur, quoi.
Mm-hmm.
On est d'ailleurs là pour parler de l'Empire et ça faisait partie, mais lui, je pouvais pas du tout passer à côté.
Non, non, bien sûr.
Mais enfin, alors, récapitulons parce que je sais pas si on va passer. On fait vraiment ce qu'on a raté entre temps. En 5 ans, il a fait quoi, 4 films et une série, une deuxième saison, un truc comme ça.
Mmh. Oui, bon, écoute, on va juste se concentrer sur l'Empire, c'est ça qui nous nous retrouver aujourd'hui, tel de vieille Némésis, tel des 0 et des 1, tel le bien et le mal. Voilà.
Non, qui est c'est... le 1 et qui est le 0, ça.
Ah bah ça. Donc, Bruno Dumont, l'Empire, c'est la rencontre entre tous ces genres de cinéma. C'est la concrétisation en fait film du Bruno Dumont Cinematic Universe. Il y a des hommages à la vie de Jésus, à toutes ces cinématographies, en fait, à son version humoristique. Et là, il embrasse, il visite un nouveau genre qui est celui du space opéra, de la science-fiction au sens large. Et voilà, on a une histoire qui est très... voilà, la base, c'est Star Wars, les gentils contre les méchants, on est vraiment là-dedans.
Ouais, hein. Enfin, on est dans un manichéisme absolu.
Ouais. Et ça fait partie du problème, d'ailleurs. Alors voilà, c'est un film qui, en plus, a eu un cycle sur les réseaux sociaux où les gens l'ont pris un peu en grippe sur la base de déclarations d'Adèle Haenel qui avait jugé le script malvenu avec des blagues sur la cancel culture et sur MeToo qu'on ne retrouve pas tellement.
Bah non. Je sais pas du tout, moi. Je sais pas, on en parlera, mais c'est vrai qu'après avoir vu le film, j'avais pas suivi tout à fait ça. Je savais que donc elle s'était barrée, que Dumont avait rien voulu changer à ce qu'elle avait voulu changer au truc. Mais alors est-ce qu'il a changé après coup ? Parce que s'il a pas changé après coup, en fait, j'ai du mal à voir les blocages. Je veux dire, j'ai une petite sensibilité. Quand tu vois, je peux être très au diapason de trucs qu'on peut reprocher. Là, j'ai pas eu de tilt, tu vois. J'ai pas fait oh, terrain glissant.
Bah, c'est vraiment parole contre parole pour le coup. Hein. C'est la parole de Bruno Dumont contre celle d'Adèle Haenel. Ils se sont répondu. Enfin, il n'y a pas eu de dialogue. C'est peut-être ça le problème.
Particulièrement. Je sais juste pourquoi elle s'est barrée et que lui s'était défendu des arguments qu'elle avançait.
Mm.
Mais c'est vrai qu'à la voyure du film, je ne vois pas trop.
Après, c'est ça le problème aussi. Et c'est le ton de ça. C'est parole contre parole, comme je le dis. Et c'est très délicat. Objectivement, factuellement, de pencher pour l'un ou pour l'autre. La réponse qu'a opposé Bruno Dumont aux accusations, entre guillemets, d'Adèle Haenel, tendent un petit peu à confirmer certaines de ses appréhensions, disons.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Sur la réalité du script, je ne sais pas.
Quoi,
après.
Ça, enfin, qu'est-ce qu'il a dit, vas-y, et clairement en même temps, comme ça on éclaire aussi les auditeurs.
Mmh. Bah, c'est que, grosso modo, qu'au départ, elle n'avait pas de problème avec le script, et puis après, elle est revenue vraiment avec des idées féministes plein la tête, quelque chose avait changé,
oui,
tu vois.
Ça, oui, effectivement, voilà. j'avais lu ça. Ouais.
Voilà, sur cet ordre d'idée. Alors après, sur la réalité du film, c'est pas quelque chose qu'on retrouve. Après, C'est un film aussi qui a été beaucoup attaqué sur son côté misogyne. C'est là où je me suis adouci, peut-être, vis-à-vis de Bruno Dumont. C'est que, tu veux, je suis arrivé avec ça en tête en voyant le film, en me disant, allez, je vais essayer d'être une ardoise vierge et de prendre ce film et ce qu'il a proposé. Et disons que, voilà, alors après, c'est toujours le même problème dans ce genre de considération. Je suis un homme, hétéro, cisgenre. Je suis peut-être moins affecté par ce genre de choses. Je vois qu'il y a des problèmes dans l'écriture de Bruno Dumont, dans sa façon d'appréhender les dynamiques relationnelles entre hommes et femmes, dans la façon qu'il a d'écrire le personnage de Lina Koudry, qui est une... C'est pas tant que c'est une abomination, mais c'est tellement comme ça que j'imagine un boomer, je suis désolé d'employer ce terme, mais ouais. Écrire un personnage de jeune fille d'aujourd'hui avec le portable, si tu veux.
Alors là, vraiment, je te suis pas... Je te suis pas là-dessus parce que pour moi, c'est un perso qui est une espèce de caricature, certes. Bah, enfin, comme il sait faire, et puis il est porté par Koudry, qui est, moi, je trouve exceptionnel dans le film. C'est vraiment, enfin, je trouve qu'elle porte le film dès le début. Elle est là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Elle explose complètement les carcans du personnage, justement, de cette caricature dans laquelle va pas l'enfermer. Je pense même pas que ce soit le désir de Dumont de l'enfermer dans la caricature.
Ah ouais.
Mais elle apporte une. Humanité, waouh, t'as la ref, au personnage, qui fait qu'en fait, je trouve qu'elle dépasse la caricature. Elle est drôle, elle est hilarante.
Oula.
Ah ouais, moi, j'ai vraiment beaucoup ri. Enfin, hilarante. Non, j'ai pas pleuré comme devant Y a-t-il un flic ou un Bram Zucker, tu vois, mais j'ai rigolé vraiment beaucoup.
D'accord.
Comme je te disais, quand on en discutait un peu, elle a cette réplique complètement dingue. Tu vois, il joue avec ses mots, avec ses expressions complètement débiles, et je trouve qu'il en rit, et je trouve que c'est très drôle la manière dont il en rit. Quand elle balance à, je ne sais plus comment il s'appelle, John ou...
C'est Johnny, je crois.
Prénom de Johnny, voilà, qui a récupéré le bébé, là, le
Marga.
Le Marga, voilà.
Non, mais c'est toi le fan, merde.
Mais oui, non, mais pardon, mais moi je suis vieux, j'oublie les trucs. Et qu'elle lui fait, ouais, t'as récupéré le marga en deux spies, ou je sais plus quoi. Ouais, Askip, t'as récupéré le marga, t'étais deux spies, on dirait.
Oui.
Elle te balance ça, tu vois, avec une espèce d'aplomb, cette réplique qui veut absolument rien dire, qui est complètement débile. C'est très drôle de jouer avec ces expressions-là, et il en rit. Et je crois pas qu'il en rit de manière méprisante, je crois pas qu'il en rit de manière. Tu vois, comme toi, tu le sens très, très.
Ouais.
Très, judgmental. Moi, Dumont, je le sens pas comme ça. Il a toujours pris ses personnages avec leur langage. Et certes, là, il en abuse, mais pour le rendre drôle.
Mmh.
Le rire, tu vois, ça m'a rappelé vraiment un côté les BD humanoïdes associés des années 80, tous les trucs de Jeannot, etc., où on récupérait du langage moderne, mais tellement actuel qu'en fait ça en devenait drôle, tellement c'était débile. Et là, moi, j'ai retrouvé cette espèce de verve un peu idiote et très drôle qu'elle porte super bien parce qu'elle comprend très bien en fait le jeu. C'est pour ça qu'elle est très bien. Pour moi, on dépasse là une caricature vulgaire en fait. Décrit un personnage qui est ce qu'elle est et dans ce qu'elle est. Et même si c'est caricatural, effectivement, je trouve qu'il y a une vraie noblesse humoristique en tout cas dans l'écriture de ce perso.
Je ne m'arrête pas. Pas du tout d'accord, mais.
Non, ben ça, on a bien compris qu'on n'était pas du tout d'accord.
Mais waouh, mais tellement pas. Moi, c'est une actrice que j'adore, hein, et là, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, mais moi, comme je te dis, j'ai pas l'impression que ça dépasse une espèce de cliché.
Elle porte super bien et qu'elle est justement très très bonne dans le truc et qu'elle a tout à fait compris ce qu'elle devait faire et comment elle devait le faire. J'ai pas l'impression qu'elle essaie de sauver les meubles, tu vois.
Ah non, je te dis qu'elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, mais c'est pas, elle n'est pas en souffrance, elle a accepté le rôle et elle se colle dans l'univers, voilà, autant que faire se peut, autant que cet univers puisse tenir, et cet univers tient, c'est un univers qui tient de façon très 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 singulière et particulière. Je reconnais ça au film, une façon d'utiliser les effets spéciaux de façon extrêmement étrange et assez fascinante. Pour tout dire.
Dans quel sens ?
Dans le côté, ça a beaucoup été dit, hein, mais ça a beaucoup été comparé à Twin Peaks The Return, c'est-à-dire vraiment des effets dont on voit l'artificialité numérique et qui, en même temps, amène une espèce de vallée dérangeante, pour employer des gros termes, qui donne quelque chose d'inédit, une espèce d'impression de bricolage avec le numérique. Ce qui peut sembler très très paradoxal, mais qui moi me fascine et m'étonne vraiment, quoi.
Lui a un rapport au numérique. Moi, je me souviens quand je l'avais interviewé, on en avait longtemps parlé de son rapport au numérique. À l'époque, il n'osait pas y aller, il n'aimait pas ça.
Ouais.
Et depuis, il l'a fait parce que la fin justifiait les moyens et qu'il n'avait pas forcément le choix de passer, de rester au film, quoi. Lui, ce qu'il aime, c'est le film. Ce qu'il expliquait, c'est la transformation chimique, quoi. Donc évidemment que t'as pas avec le numérique, et je trouve qu'effectivement il bricole un truc avec son rapport au numérique qui est bien. C'est marrant, je savais pas qu'il avait été comparé à la saison 3 de Twin Peaks, mais c'est un truc moi que je trouve très très marquant dans le film, que j'ai apprécié évidemment, parce que bah, je le disais à un copain il y a pas si longtemps, plus je vieillis plus je crois que Lynch est le réal avec qui je mourrais, quoi. Mais il y a un truc moi qui m'est apparu et que j'avais jamais vu dans son cinéma, c'est des influences, l'influence de Lynch, de toute manière, mais je trouve presque revendiquée. Il y a énormément, tu parles des effets spéciaux, effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est tout à fait vrai. Mais il y a plein d'éléments dans le film qui rappellent le cinéma de Lynch, que ce soit dans une mise en scène, dans une écriture, dans des trucs, et même dans des humours, dans des manières de jouer avec le cinéma et avec ce qu'il écrit. Il y a ce truc, on dit lynchien quand on est vraiment dans une ambiance, tu vois, voilà, qui rappelle un truc de Lynch. Là, je trouve qu'on dépasse l'ambiance, on est vraiment presque parfois dans des citations. Et ça m'a vachement étonné de la part de Dumont. Et en même temps, j'ai trouvé ça assez chouette qu'il s'autorise, tu vois, à dire ouais, bah ouais, tu vois, je suis fan. Quand il faisait Mahout, moi, Mahout, c'est le truc qui m'avait saoulé, genre, il y avait ce côté Twin Peaks, tu vois, de la côte du Nord-Ouest, quoi, de toute manière. Alors, il tourne un peu à Twin Peaks de la France, en fait, du monde quelque part. Et donc, il y a ce côté Twin Peaks dans Mahout, mais qui m'avait vraiment fait chier, parce que là, il y avait une espèce de calcage, quoi, qui n'était pas très intéressant, je trouve. Et là, je trouve que ça dépasse ce truc-là, et qu'on voit du Lynch partout dans ce film. Et c'est un truc qui m'a un peu fasciné en le voyant, parce que ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas, comme je le disais, à ça, de Dumont d'être aussi frontal avec ses influences.
Dans Twin Peaks The Return, bah, ça m'a fait penser à la fin, quand on a la mère de Laura Palmer qui est dans un bar et qui tout d'un coup révèle sa nature monstrueuse avec un effet spécial qui est à la fois très raté et très réussi, quand Dale Cooper émerge de la télévision, tu vois, ce genre de truc, quoi.
Tu vois, il y a un truc, c'était déjà dans la saison 2, où t'as le personnage de Joan Chen qui apparaît dans la premier tiroir. Là.
Oui, tout à fait.
Vraiment, un effet, tout à fait. Là, vraiment, ça, même en le revoyant aujourd'hui, je suis déstabilisé. Mais je trouve que, justement, dans le The Return, tous ces effets un peu branques, en fait, ont une beauté. Moi, je n'arriverai pas à dire que c'est raté, parce que, en fait, c'est ce qu'ils sont. Et c'est effectivement ce qu'on retrouve avec les vaisseaux de l'Empire, quoi. Ils sont ratés. Il y a un choix derrière qui font qu'ils sont ce qu'ils sont. Et tu vois, quand on les voit dans l'espace, ces vaisseaux, qui ont par ailleurs des designs tout à fait singuliers, ils sont assez monumentaux et très très beaux, je trouve. J'ai pas cette culture et cette appétence, tu vois, pour de la citation classique dans la SF, etc. Mais je trouve que là, utiliser ces architectures et tout dans ce cadre, c'est vraiment une réussite. Et je trouve qu'une fois qu'il débarque, attention spoiler, sur Terre, on ne ressent plus ces effets singuliers. Et je trouve que là, il s'intègre. L'effet est bizarre parce que on voit pas la côte. Française comme ça, avec ces espèces de trucs monumentaux, on l'a jamais peut-être vu d'ailleurs, comme ça, accosté sur ses bords. Et là, les effets sont très réussis, je trouve, et c'est une des forces du film, je trouve, d'avoir dit, et en fait, si je veux, je peux, ok.
Ouais.
Parce que t'as pas parlé de l'affiche.
Non.
Ni de la bande-annonce.
Non.
Bon. Et t'es absolument glaçant. Moi-même, quand j'avais découvert l'affiche, j'avais fait wow, attention. Je savais qu'il faisait ce film, enfin en tout cas qu'il faisait un film de SF, et je me demandais à quel point ça se rapprochait d'un projet qu'il a. Alors je ne sais pas si c'est l'aboutissement de ce projet-là qui a été déformé, reformé, etc. plusieurs fois, mais je sais qu'il avait à une époque un projet de film à Hollywood et qu'il voulait faire une espèce de film hollywoodien. Je sais, et qui s'appelait The End, il me semble, si je me souviens bien. Je ne sais pas du tout si ça c'est une espèce d'aboutissement transversal de The End, ou si The End est un autre film. Mais en tout cas, il montre là, avec ces plans-là, en tout cas, qu'il pourrait, s'il voulait, faire des trucs qui pourraient fonctionner, quoi. Je trouve ça assez chouette qu'il ait en tout cas tordu le bras aux détracteurs qui pourraient l'attaquer de manière un peu minable sur eux. Les effets spéciaux, ils sont vraiment pourris en plus. Parce qu'à côté de ça.
Mais non. Pas du tout.
Les lasers sont vraiment pourris.
Les lasers, oui.
Donc voilà, il s'amuse quand même, comme tu le disais, beaucoup avec ça, quoi. Il y a un truc que j'ai trouvé fascinant dans le film, c'est ce côté jeu de rôle grandeur nature. Je sais pas s'il en avait conscience en le faisant, j'imagine pas Bruno Dumont avoir déjà fait des jeux de rôle grandeur nature, mais qui sait. Mais pour en avoir déjà fait, j'ai tout à fait retrouvé dans ces dialogues entre les deux anges, justement, les deux 1 ou 0, je sais plus qui est l'un, qui est l'autre, à vrai dire.
Alors,
cette histoire de dualité ne m'a pas fasciné totalement dans le film, j'avoue. Mais en tout cas, ceux qui sont du côté du bien. Donc, tu as ce mec avec cette gueule complètement incroyable, on dirait une créature de Tolkien IRL. Et donc, c'est la comédienne qui l'accompagne. Tous leurs dialogues à eux sont, je trouve, démentiels. Et là, je rigolais aussi énormément quand je les entendais. Et notamment parce qu'on dirait vraiment deux gars qui sortent d'un GN et qui sont paumés hors du GN et qui continuent d'être dans leur rôle alors qu'ils sont complètement hors jeu, quoi. Et encore une fois, je disais que Dumont, je le disais déjà et je continue de le dire, hein, je trouve qu'il est pas bien avec l'humour. Mais là, je trouve qu'il y a un truc. Et en l'occurrence, les trucs qui ratent, à mon avis, à mon goût, en tout cas plutôt à mon goût, c'est l'intervention de ces deux flics.
Ouais.
Les deux flics de la série, de Petit Quinquin.
Carpentier, et tout ça. Ouais.
Qui sont, je trouve, assez agaçants. L'autre avec son côté Monsieur Hulot, là, il m'énerve à fond. En plus, c'est vraiment de la référence relou, quoi.
Ouais.
Et ils n'ont rien à foutre dans le film. C'est vraiment le côté, justement, humoristique chiant du film. Mais tout le reste, je trouve, est super réussi. Parce que, à côté de cet humour vraiment bizarre, enfin, ouais, un peu bizarre, ben, contrairement à ce que j'ai trouvé, que ce soit dans Maloute ou dans Petit Quinquin, justement, on a à côté de ça du Dumont à fond.
Ouais, je vais t'exposer ma théorie.
Vas-y.
Qui, je pense, va pas te plaire, évidemment.
Non.
Bien sûr. Enfin, tu peux peut-être comprendre ce que je veux dire. Mais justement, ça recoupe un petit peu notre dissension sur le sujet. En voyant le film, vraiment, tu vois, j'ai essayé de faire abstraction de tout ce qu'on avait dit. C'est-à-dire, lui se défend vraiment d'un quelconque regard hautain sur ses acteurs amateurs, etc. Moi, je ressens toujours... Enfin, j'essaye d'y m'imaginer, tu vois. Disant, oui, voilà, je suis un spectateur étranger qui découvre ça, je ne parle pas français, pourquoi pas. Il peut y avoir un espèce de charme naïf, etc. Moi, je trouve pas, mais j'essaye, tu vois, j'essaye vraiment de me projeter. Là, ce qui m'a vraiment pété les roustons, excuse-moi le terme, c'est au-delà de cette impression-là sur son regard sur les personnages, mais j'ai senti un profond mépris pour la science-fiction dans la façon qu'il a, en fait, justement, de présenter les choses de façon terriblement manichéenne. C'est-à-dire que t'as deux camps extraterrestres, entre guillemets, qui s'opposent pour la domination de la Terre. En gros, t'as les zéros, les uns, chacun dit qu'il est le gentil, l'autre qui dit le méchant, et en fait, t'as plein de dialogues comme ça qui viennent te le redire, on est les zéros, on est les uns, on est les gentils, ils sont les méchants. Et en fait, je vois à peu près son point de vue, et j'ai pris ça pour énorme, enfin, pour un mépris, mais sidéral, pour le coup. C'est-à-dire, vous aimez la science-fiction, vous êtes vraiment des abrutis, quoi. Et j'ai lu un article du camarade Lélo Jimmy Battista qu'on embrasse dans Libération, date du 28 février, donc un sujet sur les effets spéciaux en France, où il interviewe Bruno Dumont, où il parle de l'Empire. Et Bruno Dumont a dit ça à Lélo Jimmy Battista, alors je cite, « J'avais envie de faire de la pure science-fiction, du space opéra, ce sont des genres que j'aime profondément, et je voulais voir s'il était possible de les greffer à mon cinéma. Je ne voulais surtout pas être dans l'ironie ou l'approximation comme a pu le faire Mel Brooks, par exemple. » Alors, voilà ma théorie, Virgile, et je m'en excuse. Non, tu sais quoi, je m'en excuse pas, j'assume.
Non.
Bruno Dumont, c'est l'équivalent cinématographique de Emmanuel Macron, pour moi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait des choses qui sont extrêmement désobligeantes, qui sont, quand tu lui fais remarquer, il dit « mais pas du tout ».
Ah ouais.
Et il s'en explique, il s'en justifie en disant quelque chose d'encore plus affreux. C'est-à-dire là, en l'occurrence, bah Mel Brooks, il parle, j'imagine, de La folle histoire de l'espace, qui est un film pour lequel j'ai une grande affection, qui a peut-être terriblement mal vieilli. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais ouais, moi, j'ai pas senti de comment dire d'approximation. Déjà, mais c'est un film qui est quand même dans mon souvenir assez assez travaillé, assez léché, qui rigole des conventions cinématographiques.
À ça, faudrait quand même, tu vois, ça mériterait. Enfin, je sais pas si tu. Ça demande précision. C'est quoi,
oui.
Qu'est-ce que tu veux dire par approximation, tu vois?
Ouais.
Mais bon, vas-y, oui, pardon, je
Non, mais c'est
t'interromps.
ça. Non, mais tu vois, ils se défendent. Non, mais pas du tout. Pas du tout, vous n'avez pas compris. C'est vous qui n'avez pas compris. Et en plus, il dit, enfin, il va insulter Mel Brooks derrière, tu vois. Enfin, dans le.
Attends, il insulte pas Mel Brooks. Il dit qu'il y a des approximations. Donc, on aimerait savoir ce qu'il entend par là. Des
Oui.
approximations dans Spaceballs. Spaceballs n'est pas un chef-d'œuvre, tu vois. Il n'est pas en train de
Non.
dire des approximations dans 2001, tu vois.
Non, mais c'est
Des
dans ce
approximations.
que Spaceballs, la folle histoire de l'espace, essaye de faire, il le fait bien.
Oui,
Voilà.
non, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est à Dumont qu'il faudrait que tu demandes, mais qu'est-ce que vous
Oui.
entendez par approximation? Et ça, franchement, j'ai envie
Puis,
d'avoir un Discord entre toi et Dumont qui parle de Spaceballs pendant 1 heure, quoi.
En fait, c'est moi qui vais dire, poser une question et un silence de 3 minutes.
Non, mais tu vois, je vous
Il va me
entends
regarder en me jugeant.
direct, quoi.
Oui, mais tu vois, en plus, c'est absurde de traiter un film comme Space d'approximatif. Tu vois, c'est bizarre. Parce que comme tu disais, Scary Movie n'est pas un slasher très, très tenu, tu vois, quoi.
Non, mais peut-être qu'il
Ouais.
entendait justement des approximations dans la manière de se moquer du genre. Alors, en revanche,
Que tu
tout
vois ce
ceci.
que je veux dire, du coup.
Fini, fini.
Non, mais
Pas
c'était
fini.
ça ma théorie.
C'est ça. Ok. Alors,
Bruno Dumont égale Macron.
je trouve que tu mets un carcan, une cloison. En fait,
Ouais.
que tu cloisonnes la SF. Je ne crois pas que le film s'attaque à la SF du tout. Je sens d'ailleurs un très très grand amour de la SF dedans. Figure-toi. En revanche, il attaque le blockbuster de science-fiction.
Ouais.
En tout cas, le blockbuster en général. Et ça, pour moi, je trouve ça beaucoup plus cohérent, puisque c'est quand même pas tout à fait nouveau qu'il s'attaque au cinéma bourgeois. On n'en a pas parlé. Enfin, je sais pas si tu as aimé France.
Non.
Ouais, j'ai adoré.
Ouais.
J'ai trouvé. Enfin, c'est peut-être son plus grand film, quoi. Donc, c'était une attaque frontale du cinéma bourgeois et de la bourgeoisie, du système entier que ça entoure, quoi. La culture bourgeoise, en fait. Et je retrouve en fait dans l'Empire cette attaque-là, pas forcément du bourgeois, mais du puissant. Et pour moi, dans l'Empire, c'est pas la science-fiction qui l'attaque. Et je vois encore une fois quelqu'un qui n'aime pas la science-fiction n'aurait pas créé ses, enfin, n'aurait pas cherché à créer ces vaisseaux-là, par exemple. Tu vois, ces designs de vaisseaux, ces designs spatiaux, la séquence finale, qu'on l'aime ou pas, c'est quand même une très belle séquence cosmique. Sans parler de ce qu'elle raconte, tu vois, mais enfin graphiquement, on est dans une très belle scène cosmique. Enfin, j'ai du mal à imaginer Dumont pas fan de science-fiction russe. J'ai du mal à imaginer Dumont pas fan de science-fiction un peu high level, tu vois, effectivement, du 2001, etc. Tu connais ce bouquin Yapou?
Non.
Je te le conseille. T'adorerais.
OK.
C'est un bouquin de SF japonais. Qui a une somme, hein, je l'ai là dans les mains, 1300 pages, 1400 pages. C'est un bouquin, tu vas beaucoup aimer, hein, chope-le dès que tu peux. Et c'est un bouquin de SF totalement dingo. Et j'ai retrouvé, en fait, dans l'Empire, j'aimerais bien savoir s'il l'a lu, s'il y a pensé, des trucs de SF japonaise littéraire que j'ai lu. Alors, mais vraiment, je ne suis pas spécialiste du genre du tout, mais il se trouve que j'en ai lu un peu parce que j'étais curieux. Et on trouve dans la SF japonaise 70, un peu dans les sphères de l'underground et de la contre-culture à l'époque, des images en fait que j'ai retrouvées dans l'Empire. J'aimerais bien savoir si Dumont avait ça en tête. Ça, je serais curieux. Et par ailleurs, un truc très japonais. Enfin, ces vaisseaux, pour moi, ont une espèce d'ampleur et de folie qu'on retrouverait dans une espèce de truc japonais qui serait dit on va faire de la SF avec de la culture occidentale classique, etc. Qu'est-ce que ça pourrait donner, ces vaisseaux comme ça, etc. Et je sens là, moi, un véritable amour. Mais effectivement, donc ce que je disais, moi, mon discours, enfin, qui considère que Dumont méprise la SF, il méprise les blockbusters. Et ça,
Ouais.
c'est évident. Alors, on en a un peu parlé avant, mais moi, j'adore les blockbusters. Je trouve que c'est un genre qui échappe totalement à l'objet critique, ce que je trouve extrêmement dommage, parce qu'on considère qu'un blockbuster, on le juge à son efficacité, mais on ne va pas le juger à d'autres éléments qui font qu'un blockbuster marche ou pas. Tu peux t'appuyer sur les 15 ans du MCU, enfin 13 ans de MCU, pour bien voir que, ne serait-ce que dans ce cadre-là, il y en a des réussis, il y en a des ratés. Et pourquoi? Et ce n'est pas que par leur succès que ces films sont réussis ou pas. C'est parce qu'il y a un truc derrière, il y a une générosité, un truc, pardon, une machine qui arrive à être plus ou moins grippée par le réalisateur ou l'auteur qui va être derrière. Et donc, à côté de ça, dans ce cadre du blockbuster, on ne peut que être d'accord pour dire qu'il y a une machine derrière qui est impériale et qui est relativement abjecte. Le peu de gens qui arrivent à s'en sortir, et à faire quelque chose d'intéressant avec un blockbuster, c'est une très très grande minorité. Et l'un dans l'autre, si quelqu'un attaque les blockbusters, enfin, ça va dépendre qui attaque les blockbusters. Je vais un jour être l'avocat du blockbuster et l'autre jour, je serai son plus gros procureur. Mais quand Dumont l'attaque, j'ai plutôt envie d'être du côté de Dumont. Et j'ai pas envie de lui dire, oui, bon, quand même, tu peux pas parler du blockbuster comme ça. Parce que ce qu'il raconte sur le blockbuster, dans son film, avec cette espèce de manichéisme, on peut pas lui reprocher. Enfin, il a raison.
Non, mais moi, je veux bien. Mais moi, j'entends tout ce que tu me dis et je suis prêt à être d'accord. Mais sauf qu'il propose rien d'autre derrière, en fait. Si. Ce qu'il propose, moi, ça m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je trouve ça limite consternant, en fait. C'est-à-dire de rajouter. Enfin. Consternant. Voilà, il rajoute du cul, grosso modo. Moi, je résume de façon un peu.
C'est vraiment vite résumé, et puis c'est un peu dégueulasse.
Il rajoute du plaisir. C'est peut-être ça, si tu veux, qui posait problème dans le script de base et qu'il a retouché. Je sais pas, je suis pute, hein, pour le coup. Mais ce qu'il rajoute, et pour le coup, ce serait intéressant. Tu vois, moi, c'est pas ça que je juge. Je fais absolument pas le pudibon, au contraire. C'est de rajouter, justement, de mettre du sexe dedans, en fait. Et je suis désolé, mais je disais pas ça de façon péjorative, parce qu'en plus, quand je repense à la scène, en fait, où ça se déclenche, c'est-à-dire où Johnny prend la main de l'émissaire du camp d'en face et lui met sur le sexe, enfin, oui, c'est du cul, quoi. Enfin, il met, justement, du plaisir charnel là-dedans, qui est filmé de façon très bizarre à la Dumont, à la fois proche, à la fois très distante.
Souviens-toi de la manière dont il filmait le cul dans 29 Palms. Hein. C'était très très distant aussi. Hein.
Oui, tout à fait. Mais pourquoi pas ?
Quand j'ai vu ces scènes de cul, moi, ça fait partie des trucs qui m'ont fait dire « Ok, il fait son cinéma
ouais. ».
J'ai retrouvé en fait une manière de filmer le corps et la chair. Il a toujours été obsédé par ça. Il n'est pas obsédé par ça de manière sexuelle du monde. C'est pas son truc. Je le vois pas comme ça en tout cas. Je le perçois pas comme ça, comme un gros porc qui va filmer du cul parce que c'est super. Lui, ce qui l'intéresse dans le cul, c'est vraiment, je crois, le côté cathartique du cul. Le côté sacré du cul, le côté du corps dans le corps, enfin bon, c'est quand même son délire depuis toujours. Et à chaque fois qu'il a filmé du cul, c'était pas du cul. Il filme deux corps qui s'entrechoquent et qui communient avec de la violence ou avec de l'amour. Mais en tout cas, c'est toujours ça. Et ça faisait un moment, je trouve, qu'on le voyait plus dans son cinéma. Mmh. Quand j'ai vu il y a deux scènes dans le film. Et quand j'ai vu la première, qui arrive en plus, dans laquelle il mêle un petit peu d'humour, parce que cette rencontre est bizarre, parce que les acteurs sont bizarres, parce que cette rencontre de comédien, il a une comédienne et un amateur qui se rencontrent comme ça, il fracasse les deux, c'est son jeu aussi, tu vois, il l'a toujours fait comme ça. C'est pas que les personnages qui se rencontrent, c'est les comédiens, et c'est aussi de cinéma particulier, c'est justement son cinéma de Dumont et son cinéma de science-fiction avec cette comédienne qui joue un peu ce qu'elle peut. Mais
moi, il y a une scène où ça marche dans le film et c'est beaucoup plus que dans l'immense majorité des films de Bruno Dumont que j'ai vu. Justement, ce mélange-là, c'est la scène de Camille Cotin qui, pour le coup, m'a fait sourire. Ça m'a pas fait rire, mais ça, la scène de Camille Cotin qui incarne le corps de la mairesse du petit village où ça se passe et qui, du coup, a une scène de marché où elle parle aux habitants et où on fait un brief à chaque fois très très rapide sur chaque habitant. Et là, la confrontation, elle marche, en fait. Ouais, là, ça marche.
Tu vois, c'est pas celle qui j'ai trouvé marche le mieux. Moi. Je pense que la confrontation dans le pré, ça marche mieux. La confrontation de Coudry et Johnny, ça marche mieux. Confrontation de Coudry et la mère de Johnny, ça marche encore mieux. Mmh. Ça pousse loin parce qu'on n'en parle pas de la mère de Johnny, mais c'est un truc quand même dans le film, tu vois.
Ouais.
Ça pousse le plus loin probablement le délire du mon corps, quoi, de la crudité de la vie, quoi. Et donc ce cul, moi je le trouve pas du tout que ce soit un cul critiquable, quoi.
Parce qu'il
a toujours fait. Et je trouve qu'en plus, voilà, il retrouve, je trouve, dans ce film, plein de trucs qu'il a abandonnés depuis quelques films.
Mais c'est pas ça que je te dis, hein. C'est pas ça que je te dis. Moi, c'est pas le fait qu'il y ait du cul dedans qui me dérange, et à la limite, pourquoi pas. Effectivement, on vit dans une époque où c'est une vraie interrogation, en fait. Et c'est une interrogation qui cache énormément de débats sociaux, sociétaux, idéologiques. C'est justement, rajouter ça à une critique du blockbuster, c'est on ne peut plus pertinent, évidemment. Évidemment. Sauf que, moi, je trouve, qui n'en fait rien et que sa fin est une non-fin, typiquement. Ce qui est totalement dans la logique d'une parodie de blockbuster, et moi je trouve que c'est juste, une parodie pour une parodie et qui ne propose pas grand-chose derrière, en dehors d'une présentation visuelle, en dehors des effets spéciaux qui sont très étonnants et de la juxtaposition des mondes qui, moi, ne prend pas en fait.
Je pense que c'est parce que t'aimes pas Dumont. Vraiment,
oui,
parce que
c'est possible.
Derrière, moi je te dis, bah si, derrière il y a le cinéma de Dumont.
Ouais.
Et moi, vraiment, alors, j'y suis allé, je pensais pas aimer. Hein. Et en fait, si c'est pas exactement, j'ai vu à 2 jours d'intervalle Dune et l'Empire. L'Empire d'abord et Dune après. Et j'avais ce rapport aux deux films très antithétique, c'est-à-dire que j'adore Dumont. Et celui-là, j'y allais reculons. Enfin, j'avais très peur. Je déteste Villeneuve. Et Dune 2, j'y allais en me disant, ouais, ça va être cool. J'étais chaud. Et bah, je suis sorti de l'Empire. J'ai été extrêmement surpris, rassuré sur Dumont, et j'étais content d'avoir vu un film qui m'a déjà surpris, puis en plus qui était bien, qui était beaucoup mieux que ce que je craignais, qui échappait un peu à tout ce dont j'avais peur, à part un peu Lucchini, mais même lui, il était soft par rapport à ce que je craignais. Et en revanche, je suis sorti de Dumont, j'étais deg, et puis en fait, ça m'a juste confirmé que Villeneuve était un con, quoi. Et donc, c'était marrant de voir ces deux films en miroir, qui étaient deux films de SF, avec en plus un take graphique, qu'on aime ou pas Villeneuve, il y a quand même ça, heureusement, derrière, dans le film. Et un truc graphique qui est une expérience, quoi, comme dans Dumont, d'ailleurs. Hein. Oui, tu vois, ces trucs que je retrouvais dans Lynch, il y a pas mal de scènes avec Lucchini qui m'ont fait penser à Lynch, et justement au Black Lodge, etc. Tu sais, il y a cette scène où il est devant son espèce de petit orchestre de cour, là.
Ouais.
À la Bruegel, hyper bizarre, qui danse comme ça de manière étrange, qui rappelle complètement des trucs du monde noir. Et je sais plus pourquoi j'évoquais Dune et Dumont, si, parce que je voulais dire que c'est ça, j'y allais à reculons et j'en suis sorti enchanté, non, mais ravi, quoi. Vraiment, il m'a chopé.
Mais j'entends tout à fait ce que tu dis, parce que pareil, moi, mon amour de la science-fiction a été beaucoup plus flatté par ce que j'ai vu dans l'Empire que ce que j'ai vu dans Dune 2, en fait. Dune 2, moi, je trouve ça terrible, parce que ça raconte... Enfin, tu peux pas faire un film plus dans le zeitgeist, entre guillemets, que Dune 2. Vraiment, par ses thématiques, par ses résonances avec le monde d'aujourd'hui. Et le film est comme pétrifié par ses enjeux, il n'y a aucune incarnation, tout le monde est plat, tout le monde joue sur la même note, monocorde, et visuellement c'est pareil. On a un film quand même où t'as des drogués terroristes du désert qui chevauchent des vers des sables géants, et c'est filmé de façon très rationnelle. Ils prennent le métro, les mecs, en fait.
Ou de lyrisme de cet homme, quoi.
Ah, mais le lyrisme de cet homme, moi, je ne l'ai jamais ressenti, quoi. Enfin, me suis dit, oh, le son est trop fort, là. Mais peut-être que je suis vieux aussi, tu vois, c'est ça. Mais ouais, moi, j'étais beaucoup plus stimulé par le fait de voir Johnny monter 14 étages dans des cathédrales de l'espace.
Et ses chevaliers, ses cavaliers, là, quand ils sont sur la route, comme ça.
Ça fait très GN, ça, ouais. Ça fait très, très, très GN, pour le coup, ouais.
Avec ses chevaliers, là, sont complètement dingues.
Mais c'est dur, hein. Je n'arrive pas avec le cinéma de Bruno Dumont. Vraiment, il y a
un énorme blocage, alors que je pense que quelque part, c'est vraiment, je pense, t'as la peur d'aimer, quoi, c'est tout. Il y a un truc que t'as peur d'aimer là-dedans, parce que l'Empire, je pense, vraiment, aurait pu marcher, hein. Je pense que t'aurais pu voir des trucs. Et d'ailleurs, t'en vois sans oser dire que t'en vois, quoi.
Non, je le dis, franchement.
Disons que je pense qu'il y a plus de trucs que si t'osais, il y a plus de trucs que t'aimerais.
Je sais pas, moi je vois pas. Oui, et pour finir sur la sexualité du film, c'est que ça n'aboutit que sur cette espèce d'opposition qui recoupe avec un premier degré et un mélangé à du second de façon très bizarre dans cette fin qui n'en est pas une, en fait, qui est dans de l'antispectaculaire total. Et pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? C'est intéressant. Moi, je te dis, j'ai l'impression que c'est quand même très léger, tu vois, comme parce que ce culot de dire que non, je sais pas, que la satire, la parodie, juste pour la satire ou la parodie, bah c'est les films de Jason Friedberg et Harold Seltzer, tu vois, c'est Big Movie, ce genre de truc, quoi. Mm-hmm. Spartatouille, voilà. Je dis pas que c'est ça, hein, l'Empire, mais c'est moi j'ai rien à mettre sur la dent, quoi.
Écoute, c'est un truc. Pareil, hein, ça je te l'avais dit, mais je le redis ici parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler. Il y a un côté, il y a un côté du pieu dans l'Empire.
Ouais.
J'ai trouvé, tu vois, j'ai vu avec un pote avec qui on m'a suivi, depuis le début. Et puis il y a des trucs qu'on aime, il y a des trucs qu'on n'aime pas. Il y a des trucs sur lesquels on est très d'accord. Et puis je pense que c'est difficile de pas l'être quand on parle du pieu. Mais à part deux trois films, tu vois, du pieu c'est quand même creux, tu vois. Enfin, ça porte son cinéma. Hein. C'est
Dali, je suis sorti, j'étais en colère, hein, très honnêtement.
J'ai même pas vu.
Bah, c'est réel, il te refait réalité. Hein. C'est-à-dire ouais. Vraiment un film en boucle, tu vois. Enfin, un
moi,
film.
Bon, ça fait partie de ces films, oui, où je dis donner du corps et là qui met vraiment ses couilles sur la table et qui raconte un truc à lui, tu vois.
Mmh.
Et mais Dali, donc je sais pas, je l'ai pas vu.
Bah, c'est une boucle, c'est un film qui se fout de ta gueule aussi. Enfin, vraiment, ouais, moi, j'ai cette impression-là. Hein. Enfin, c'est.
Donc, dans ce côté, voilà, foutage de gueule, bah, dont tu parlais à propos de l'Empire. Donc, on peut le retrouver chez Dupieux. Dans ce côté blague et cinéma, finalement, très léger, qui n'aboutit à rien, bah, pareil, on le retrouve dans beaucoup de Dupieux, qui fait des films très gratuits, très, très légers, et puis très bien. Enfin, bon, je trouve ça très bien qu'il manifeste ce truc à l'intérieur même de l'industrie, qu'on peut faire du cinéma comme ça. Et là, sur le projet même de Pieux, c'est très bien. Bon, ça n'aboutit pas à des films très, très marquants, pour la plupart. Et je trouve que l'Empire, justement, arrive à totalement se sortir de ce côté anecdotique grâce à Dumont, grâce à l'envie de Dumont qui est toujours présente. Dumont est un gars sérieux. Il est peut-être pas très drôle dans la vraie vie, je pense.
C'est pas grave, hein, mais...
Non, ce qui n'est justement pas très grave, c'est quelqu'un qui a une gravité. Et je trouve que même quand il fait de la comédie, en tout cas là, dans l'Empire, il y a ce désir de cinéma qui est grave, qui est là, et qui donne un poids au film que, par exemple, justement, Dupieux arrive très bien à s'en extraire. Alors que l'Empire, justement, je trouve qu'il n'arrive pas à s'extraire de cette gravité de Dumont. Et je trouve que, justement, c'est ce détail-là qui donne toute sa richesse au film et qui fait que moi, je suis sorti du film en disant « Putain, j'ai vu un vrai film, là, en fait. » J'ai pas vu une blague avec des gars avec des faux sabres laser qui jouent comme dans un GN et qui ont des gueules cheloues, tu vois. Je suis pas sorti comme dans « Fumer fait tousser », tu vois. Je suis sorti en disant « Putain, c'est un vrai film, quoi. »
Ouais.
Et c'est ça qui m'a vachement rassuré sur Dumont, et puis où j'étais content de sortir de l'Empire, quoi. Et putain, ouais, il a fait ce truc débile, et pourtant il a réussi à en faire un vrai film, quoi. Ça, assez fort. Partant d'une énorme blague, quoi.
Bah oui, mais enfin, ouais.
Partant de cette affiche,
partant de Lucchini, en frusque pas possible. Mais c'est vrai, je redoutais ma Maloute, c'est ce qui m'avait fait vraiment vriller. C'est le jeu, enfin, c'est le Lucchini qui pousse en hurlant la glycine. J'en pouvais plus.
Oh là
plus,
là.
En fait. J'en pouvais
ce
plus.
Côté clavier, on dirait moi qui imitais clavier, mais en fait.
C'est vrai. Il y a de ça.
Et parce que cette espèce d'en plus de référence au théâtre de la grimace, etc., qui. Tu sais, ces refs hyper classicos, le côté vraiment très, 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 très chiant de France Culture. Quoi.
Ouais.
J'adore France Culture, il y a plein de bons côtés, mais il y a parfois, tu tombes sur l'émission côté chiant.
Ou tu tombes sur Finkielkraut, ouais.
Ouais, voilà, non, mais ça, c'est encore autre chose. Mais tu vois, où tu vas avoir une heure sur le théâtre de la grimace, puis là, tu fais, oh, putain, merde. Et avec des gars qui rigolent. Oh, alors ça vraiment c'était très drôle. Ah non, bah non, c'est pas du tout en fait. Et voilà, Maloute, c'était ça, tu vois, des gars qui rigolent d'un truc qui n'a plus aucun sens, quoi, mais qui trouvent ça drôle, et ça c'est hyper gênant, quoi. Et bah j'ai pas trouvé ça dans l'Empire. Même malgré Lucchini qui est quand même ouais assez soft, j'ai trouvé.
Ouais, bah la gravité, moi je la sentais beaucoup plus dans France, du coup.
France, ouais, alors lui, il pèse lourd, lui.
J'aime pas le film, comme je te disais. Après, je reconnais qu'il y a. C'est peut-être un film, mais en creux, hein, c'est ça qui est très bizarre aussi, sur la dépression de l'époque, en fait, enfin l'angoisse de l'époque.
Ouais,
comment elle s'exprime, comment elle se manifeste. Et, c'est ça le problème, c'est qu'aussi Dumont, il y a une espèce de naïveté que j'adorerais aimer, vraiment, mais qui ne marche pas. Qui ne marche pas pour cette question de, je sais pas, hein, de regard. J'ai beaucoup de mal à me rebooter à chaque film. même si France, moi j'ai plus bouffé que, enfin j'ai plus trouvé de matière à bouffer que l'Empire, très honnêtement, ou pas, enfin comme je te dis.
Non, moi, oui, je te confirme. Enfin, je veux dire, ouais. on n'est pas à la hauteur de France avec l'Empire. Hein. Ça reste un film sympa, mais il est pas dans le top. Moi, je suis très content parce qu'il m'a surpris et parce que j'en attendais, j'avais vraiment très peur. Mais il est pas du tout au niveau des très grands du monde. Enfin, c'est chouette qu'il ait réussi son truc. Mais il faut dire que le truc à la base n'est pas forcément passionnant non plus, tu vois. Faire une parodie de blockbuster, et quand t'es Bruno Dumont, oui, bah, ça reste quand même une petite blague. Mais dans cette blague, je trouve qu'il s'en sort quand même très très bien. Et de toute manière, oui, c'est incomparable à France, qui pour moi est une palme d'or ratée, France. Pour moi, c'est un film de palme d'or. Enfin, il est à ce niveau. C'est-à-dire dans une palme d'or, dans un monde où on respecte la palme d'or, tu vois.
Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire, et le film, je reste tellement en dehors, en fait, quoi. Enfin, j'entends tout ce que tu dis, hein, critique de la bourgeoisie, je peux même entendre critique des médias. Critique des médias, c'est hyper grossier, par contre.
Je suis d'accord, l'introduction du film est crispante.
Ouais, non, Blanche Gardin, l'enfer, son rôle, l'enfer.
Je suis archi d'accord, heureusement on la voit pas beaucoup. Et mais c'est pour moi c'est voilà, je trouve que le reste évanouit cette partie-là qui est vraiment ouais, pas la réussite du film, ça c'est sûr. Et déjà de toute manière, avoir ça comme projet, je veux dire, si t'es pas Lumette, tu vois,
ouais.
Tu vas pas t'attaquer à ça, tu vois. Dumont est pas dans ce truc, tu vois, il est pas dans une espèce de, enfin je crois pas que ce soit un truc dans lequel il puisse être à l'aise, cette espèce de démonstrativité, tu vois. Truc très clashant de ah là là les médias, regardez, non c'est pas son truc. Alors je comprends ce que ça fait dans le film, parce que ça place mine de rien cet environnement bourgeois, tu vois, de l'entre-soi, etc., assez horrible, et puis qui place c'est l'exposition du film, et effectivement ça expose directement le perso, on sait où on est, on sait qui c'est, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'après ça disparaît un petit peu du film, tu vois. C'est pas le sujet.
Bah, je sais pas, en même temps, après, t'as l'accident de bagnole de Benjamin Biolay qui joue son mari et son enfant. Tellement bizarre cette scène.
Elle est extrêmement bizarre.
Enfin, c'est filmé vraiment comme du mélodrame, de façon quasi ironique. Enfin, c'est ouais, très perturbant. Et enfin, moi, ça me met une dissonance chelou. C'est pas. Je ne comprends pas, c'est pas dans les canons traditionnels. Moi, j'adore ce qui n'est pas dans les canons traditionnels. Mm-hmm. Tu vois, mais là, ça m'échappe.
Enfin, en tout cas, moi, tel que je l'interprète, ce qu'il raconte, c'est justement cette espèce de. Encore de drame bourgeois. Tu vois, est-ce que les bourgeois qu'il décrit, en tout cas, ils sont vraiment des bourgeois assez affreux. Hein, je veux dire, j'attaque pas toute la classe bourgeoise, mais ceux qu'il montre là sont quand même assez ignobles. Et les bourgeois peuvent-ils souffrir, tu vois, dans cet accident dramatique, tragique, qui brise une vie, qui brise deux vies, qui brise trois vies? Bah, il te raconte dans cette lenteur, dans cette espèce de mise en scène étrange, que bah non, en fait, ils peuvent pas souffrir.
Ouais.
Et qu'en fait. À la limite, c'est presque horrible. Il dit « Mais allez vous niquer, et bien fait pour vous. » Et quand le truc arrive, on, dans le film, franchement, on ne peut qu'être d'accord. Et quand c'est en plus, ensuite, on retrouve cette fin, la fin de ce film qui est, elle est tellement glaçante. Franchement, on parlait de la saison 3. Pour moi, la fin de France, elle est presque... Non, je ne vais pas dire qu'elle est aussi forte que la fin de la saison 3, mais il y a quand même de ça. Il y a cette fin hyper glaçante. Enfin, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu sais, ce truc, ce saccage de Vélib.
Oui.
Évidemment, dit comme ça, je vous parle d'un film hyper glaçant où en fait c'est un saccage de Vélib, mais faut le voir, quoi. C'est une expérience. Et c'est la force de Dumont, tu vois. Enfin, je trouve que c'est quand même un gars qui te filme de Bourges, qui passe devant un saccage de Vélib, et il est en train de te filmer une scène d'horreur comme t'en as pas vu beaucoup, quoi. C'est fort.
C'est encore et toujours le même problème, et qui vient de moi, hein. C'est vraiment un blocage. Je pense pas que ce soit de la peur d'aimer, vraiment. je pense vraiment quelque chose d'irréconciliable, mais pour le coup, tu vois, l'Empire, je l'ai détesté quasiment avec passion, mais comme je te dis, j'ai trouvé des choses aussi, je suis pas reparti, enfin, visuellement. Tu vois, c'est plus sur le pourquoi, l'agencement, tout ce que tu me dis, et c'est la même configuration que l'épisode qu'on avait fait ensemble sur le sujet. Ouais. J'entends tout ce que tu me dis, tout se tient. Genre, franchement, je peux pas le nier, à part en termes de ressenti. Moi, comme je te dis, Lina Koudry, je trouve ça pas possible, voilà. Mais tout ça ne s'additionne pas, en fait. Et moi, il y a toujours ce que je vois à l'écran et il y a une dissonance entre tout ça. C'est-à-dire que je pense que je vois les intentions, je vois ce qu'il a voulu dire, je vois comment il s'y prend, mais ça ne marche pas.
Peut-être que tu lui donnes trop d'intentions.
Peut-être.
Peut-être que tu cherches trop d'intentions chez Dumont, là où il n'y en a pas forcément tant que. Enfin, il y en a évidemment, mais je pense que c'est un réalisateur qui est quand même très, très instinctif. Il a ses trucs, hein. Il a ses délires, il a ses trucs et que tu retrouves, hein, ces figures qui reviennent de film en film. Et si déjà tu t'appuies là-dessus, bah, tu peux évacuer toute cette partie-là des intentions, puisque ça, c'est son truc. Okay, c'est le truc qu'il va mettre, c'est la mère dans Michael Mann et les couples qui s'engueulent, okay, et puis basta. C'est des trucs, c'est des figures récurrentes de son cinéma. Donc là-dessus, ce n'est pas des intentions qu'il a, tu vois, c'est son truc. Et alors, effectivement, après, il y en a hein, des intentions, mais peut-être moins que ce que tu penses. Peut-être que tu te prends la tête là où il n'y a pas forcément besoin. Après, si tu te prends la tête, c'est aussi parce qu'il n'arrive pas à combler une attente que tu as par rapport au cinéma, peut-être en général, et que tu ne retrouves pas chez Dumont. C'est comme ça. Pas obligé d'aimer Dumont, tu vois. Pas obligé d'aimer Villeneuve, hein. Je ne voudrais pas qu'on me force. Et il y a des mecs, effectivement, c'est de l'antipathie parce qu'il y a un truc dans sa moelle qui colle pas, quoi. Moi, je trouve que ça colle. Enfin, tu vois, faut dire que tu vois, à la base, Dumont, c'est pas mon cinéma. Hein. Moi, on vient du même cinéma, je pense, hein, tous les deux, si j'ai bien compris. Et donc, quand je découvre Dumont, moi, quand je vois du cinéma de ce genre, je me force un peu, je sais que je peux avoir mal, etc. Moi, Dumont, j'y suis allé parce que Cronenberg avait filé une palme d'or. Hein. Et ben, j'ai compris, tu vois. Ça a été pas évident, mais j'ai fini par comprendre. Et quand je vois. Tu vois, le premier que j'ai vu, c'est L'Humanité, après La vie de Jésus. La vie de Jésus est plus simple. Enfin bon, c'est un peu moins excitant quand même. C'est ce qu'il est, quoi. L'Humanité, j'ai vu des trucs. Ah ouais, dis donc. Et quand je vois 29 Palms, là, je vois un film d'horreur, comme ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu, un truc d'horreur conceptuel de dingue. Enfin, voilà, bon, j'en ai déjà parlé, on en a parlé déjà. Dans l'édition précédente, bon, c'est le massacre à la tronçonneuse français, quoi. Et voilà, et donc après, bon, j'ai compris des trucs, et puis après, je suis rentré, ça y est, j'avais pigé des trucs. Mais à la base, oui, j'y vais quand même un peu à reculons, tu vois, c'est pas mon bail, comme dirait Lina Koudry dans le film. Et puis voilà, quoi, enfin, et donc, ouais, y a des mecs, bah, ça va pas te revenir, et puis c'est comme ça, puis peut-être un jour, tu vas trouver un film, un point d'entrée. Moi, ça m'était arrivé avec Lars von Trier, hein. C'est un mec que j'ai jamais pu avant Antéchrist.
Ah
Moi,
putain, en plus.
le déblocage Lars von Trier, ça a été Antéchrist. Avant, je ne
D'accord.
pouvais pas. C'était trop, trop relou, trop chiant, trop con. Je le détestais, quoi. Et enfin, ouais, non, je ne l'aimais pas. Je l'aimais pas. Mais je crois, je connais pas ce gars-là qui a le site Chaos Reign.
Ouais.
Et alors, c'est marrant parce j'avais lu, je crois que c'est sur le site d'ailleurs, où il explique pourquoi Chaos règne, et on a eu la même épiphanie.
Ouais.
Moi, l'épiphanie Lars von Trier, c'est quand le renard, il fait Chaos règne. Et là, je comprends qu'en fait, Lars von Trier, il est drôle. Et à partir de là, bah, son cinéma m'est apparu de manière totalement différente. Et j'ai vu ses films suivants avec une fascination et un truc. Enfin, le dernier, je trouve, chef-d'œuvre absolu dont on n'a jamais assez parlé, quoi. Quel film? Peut-être, Dumont, tu vas avoir le même truc. Tu vas avoir ton renard qui parle dans un Dumont. Et puis, tu vas faire, ah, putain! J'ai compris.
Vite, je vais revoir Maloute.
Merde, je m'étais trompé. Non, mais il y a des trucs qui passent pas chez Dumont, ça c'est sûr, tu vois. Effectivement, Maloute, je pense, ça passe. Je sais pas quel public apprécie Maloute, mais c'est pas mes amis, clairement. Jeannette et Jeanne, je finirai par les voir. C'est pas les mêmes histoires que Maloute. Si j'apprécie pas, ce sera pas pour les mêmes raisons. Maloute, ça passera jamais. Je pourrai jamais aimer ce film. Ça c'est, enfin, je crois pas, quoi. Mais après, il y en a d'autres, tu vois. C'est un film sur, si tu comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tu vois. C'est un film que tu enlèves. Tous les autres, tu peux les revoir, je pense, et peut-être trouver un truc à la revoyure, quoi. Le jour où tu auras eu ton déblocage.
Ouais, un jour peut-être.
Il arrive.
Bon, bah, un immense merci à toi en tout cas.
Bah non, mais ça me fait plaisir. Non, bah, alors tu vois, celui que tu faut pas. Sibérie, c'est pas possible, tu vois.
Ah oui, non, mais c'est pas. Il joue, mais il a écrit ou pas?
Non, il joue,
C'est le
lui.
film de Johanna Price, c'est ça?
Ouais, c'était sa meuf. Ça,
Ouais,
vraiment
c'est
le rêve.
génial. J'ai pas tenu en entier. Hein. Enfin, je suis désolé. Moi, mais...
Non, j'ai regardé tout. C'était affreux. Je souffrais. Quelle souffrance. Non, ça, c'est terrible. Enfin, bon, bref. Non, je te dis merci à toi. C'est toujours un plaisir de discuter de Dumont avec toi. Parce que justement, c'est les zéros et les uns qui s'opposent. Et puis un jour, bah, on fera le gros trou noir. Et puis tout ça sera d'accord dans cette espèce de néant. Quoi.
Très bien. Bah, écoute, je ne désespère pas de te croiser un jour dans un champ à cheval. Et puis, on verra ce qui se passe.
Ouais.
Merci à toi, Virgile.
Merci, François.
Vous partez où ?
Aux Antilles, en fait.
Mais c'est vous qui présidez le jury pour les sosies, non ?
Ben oui, c'est moi, vous venez de comprendre.
Michel Houellebecq, s'il vous plaît. Non.
Non.
On dirait Kurt Cobain qui s'est pas suicidé.
Je sais plus quoi dire, là, vraiment...
Deuxième partie de ce Viteuf avec un autre film français compliqué, très compliqué. Je suis cette fois-ci en présence de Mathieu. Comment ça va, Mathieu ? Alors, un autre Mathieu que l'intégrale King Khan. C'est le Mathieu avec qui nous avions fait deux intégrales, Michel Houellebecq et Guillaume Niclou. Et là, on retrouve nos némésis, nos sujets d'investigation. Comment ça va, Mathieu ?
Salut François, salut à tous. Bah, écoute, ça va bien. Ça va plutôt bien. Ouais, on retrouve Guy et Mimi pour de nouvelles aventures.
Dans la peau de Blanche Houellebecq est sorti le 13 mars. C'est le troisième épisode des aventures de Michel. De Michel et Luc. Luc Schwartz.
Très important.
Ce corps de cinéma complètement invraisemblable découvert par Guillaume Niclou dans l'enlèvement de Michel Houellebecq. Alors, il a fait quelques autres petits rôles, quelques autres panouilles, mais c'est Luc Schwartz. Enfin, c'est... Chaque fois que je le vois dans un film, je me dis, bah non. Non, ça ne va pas. Personnage gargantuesque, gitan, juif, ex-membre du Mossad, qui passe des coups de fil à des gens parfois, où tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Tu vois ce qu'il fait en marge de ses activités avec Michel, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Donc, après l'enlèvement, Michel Houellebecq et Thalasso, qui nous avait un petit peu déçus, si je me rappelle bien, on est dans un film très étrange, pour le coup, parce que très... nourri à son contexte géographique, donc c'est Michel Houellebecq qui se rend en Guadeloupe pour un concours de sosie de Michel Houellebecq. Le jury est présidé par Blanche Gardin et c'est grosso modo Blanche Gardin et Michel Houellebecq qui prennent des champis en Guadeloupe avec un discours sur justement le colonialisme, l'indépendance, et il y a quasiment deux films qui se battent mollement en duel et puis qui renoncent au bout d'un moment. Comment tu l'as ressenti, toi ?
Déjà, le film commence par une citation de Maryse Condé. Mmh. Sur le rire, est-ce que ça peut permettre, c'est en commençant par rire qu'on peut commencer à lutter. Donc tu te dis, bon bah ça va orienter un peu le film, et pas vraiment. En fait, non, t'as une opposition entre les locaux et les blancs, et t'as de nouveau une situation de Maryse Condé c'est carrément une interview, parce que le film est entrecoupé d'images d'archives qui donnent principalement la parole à des leaders indépendantistes. Et la deuxième citation de Maryse Condé, son intervention, elle parle du fait qu'en gros, en Guadeloupe, elle a pris l'avion pour retourner aux Antilles et qu'en gros, il y avait quatre locaux dans l'avion et tout le reste de l'avion, c'était des touristes en fait.
Ouais.
Et elle s'interroge sur le fait que le territoire n'appartient plus à ses habitants, mais n'est qu'un parc de jeux en fait pour les... elle le dit pas comme ça, mais en gros, c'est ça, quoi. C'est qu'en gros, les Antilles appartiennent aux touristes et pas aux Antillais, en fait, quoi. Et le film te montre un peu ça, parce que le film te montre des Antillais qui sont au travail, qui sont pas en vacances, quoi. Et le décalage avec les Blancs qui, eux, sont en vacances, sont perchés, il fait trop chaud, faut mettre la clim. Et alors que, c'est contrebalancé par, les Antillais, ils sont pas là pour rigoler, quoi. C'est pas les vacances, ils habitent là, quoi. Donc, voilà.
Puis il y a le scandale du chlordécone aussi en toile de fond, des attentats, mais c'est vraiment une toile de fond. C'est,
ouais.
C'est alors là, pendant que Blanche Gardin et Michel Houellebecq sont en train de triper au champi, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais il essaie peut-être de te dire que en fait, il y a des vrais problèmes et tout, mais qu'en gros, en métropole, on s'en carre parce que ce qui nous intéresse, c'est d'aller boire des mojitos sur la plage, en fait, quoi. Moi, je l'ai un peu vu comme ça, quoi.
C'est
le fait qu'ils sont absolument pas... Enfin, les Blancs sont complètement déconnectés de ce qui se passe. Et ils le sont pendant tout le film, en fait, quoi. Et ils les montrent comme ça, comme des gens pas concernés. Et, en gros, ouais, chlordécone et bon, le chlordécone, c'est juste vraiment. C'est juste pendant le générique où tu as 2-3 inserts. Après, c'est pas trop parlé. Enfin, ils ont...
Tu vois 2-3 bandeaux sur les flashs d'infos, en fait. Où tu vois le mot qui apparaît et qui est un peu mis en valeur, mais c'est vraiment furtif, quoi.
Et sinon, pendant le générique, le générique qui est sur un super morceau de Christophe Chassol qui fait la bande originale, t'as un mix d'images d'archives qui partent de l'histoire de l'esclavage et qui va terminer aux luttes indépendantistes et justement au scandale écologique type chlordécone.
Donc ça, c'est le film que Guillaume Niclot essaye de mener. Ça m'a vraiment surpris de sa part. Enfin, très honnêtement, je voyais pas du tout aller sur ces questions-là, sur ce sujet-là. Bizarrement, ça marche, en fait. Enfin, je sais pas.
Moi, je trouve que ça marche, mais bon.
Bah oui, c'est le film du trio où Michel Houellebecq parle le moins. Ou limite sa parole, en fait, est parasitée et tue par le fait qu'ils prennent des champignons. C'est vraiment ça. Il y a un grand moment où Michel ne parle pas. Et où sa première confrontation avec Blanche Gardin, c'est... en fait, ça tourne autour d'une interview qu'il a donnée avec Michel Onfray. Alors, lui dit qu'il a été piégé. Mais faut Michel, quoi. Mais Michel...
Ça minimise de ouf.
Voilà. Alors,
c'était pas de ma faute. En fait, on a déformé mes propos. En vrai, c'est ce que je voulais dire. Mais en vrai, vous l'avez mal compris. Mais donc, Michel, vous avez un problème avec les musulmans ? Non.
Dans les aigus.
Donc, c'est l'homme musulman qui vous fait peur ?
Voilà. Alors, disclaimer aussi, on l'appelle Michel parce que c'est justement comme ça que l'appelle Luc Schwartz, en fait. Et c'est, ça désacralise à mort la statue du commandeur Michel Houellebecq, en fait. Moi, c'est ça que j'aime dans ces films aussi. C'est que Niclot a eu une intuition que personne n'aurait jamais eu, je pense, sur Michel Houellebecq, c'est son potentiel comique. Droupi qui subit les événements et qui est complètement à l'ouest tout le temps, qui comprend rien à ce qui lui arrive et qui sort des trucs complètement absurdes, abscons, parfois très construits, mais qui s'effondrent pour peu que la conversation continue ne serait-ce que 5 minutes. Et là, c'est désamorcé par Blanche Gardin qui lui parle de ça et qui lui dit quelque chose qu'on voit dans la main. Non, c'est en fait, faut arrêter de donner des interviews, Michel. Vous écrivez des beaux livres, bon alors ça se discute. Ça. Vous écrivez des beaux livres, mais arrêtez de parler entre les deux, quoi. Et c'est ce que le film s'astreint à faire. Et alors, je dis pas que c'est pour ça, mais par rapport à Thalasso, donc le film précédent des aventures de Michel Houellebecq dans l'univers cinématographique de Guillaume Niclot, j'ai beaucoup plus adhérer au projet, même si effectivement le côté discours politique derrière m'a beaucoup surpris, m'a décontenancé, mais sur le moment je me disais bon, la greffe prend pas, mais c'est pas grave, justement c'est ce côté absurde qui fait que, mais oui, en parlant avec toi et en y repensant, effectivement ça fait sens, quoi. Mais le film, moi, m'a fait rire, mais c'est le film qui m'a plus fait rire cette année. Voilà, même si c'est Blanche Gardin, même si c'est Michel Houellebecq, même si c'est Guillaume Niclot dont on a soulevé tous les trucs qui pouvaient un petit peu nous gêner, mais qu'est-ce que j'ai ri, quoi. Qu'est-ce que j'ai ri.
C'est drôle, non, j'ai vraiment beaucoup ri aussi. Moi, je trouve que c'est le plus drôle des trois.
Ouais.
Je sais que toi, tu préfères le premier, mais en tout cas, c'est le truc qui est sûr, c'est que c'est mieux que Thalasso.
Oui.
C'est mieux que Thalasso parce que ça s'affranchit vachement plus de son dispositif, c'est vachement plus ample. Il y a des péripéties, c'est... Le truc est un peu rocambolesque, alors que là où Thalasso avait du mal à sortir de c'est Michel et Gégé, c'est Mimi et Gégé dans la chambre d'hôtel en train de picoler, quoi, et de raconter n'importe quoi. Là, déjà, ils font pas que picoler, ils prennent de la drogue, et après, il y a toutes ces histoires, le fait qu'ils soient, ils jouent pas à la maison, enfin, ils jouent hors de la métropole, le fait qu'ils doivent interagir avec d'autres personnes, que... Ça fait moins private joke. Thalasso faisait vraiment genre, on a l'idée, on a le dispositif, on le pose là, et puis voilà, on verra ce qui se passe là. Non, tu sens qu'ils ont créé une histoire. Puis on va pas dire ce qui se passe à la fin, parce qu'on va pas raconter vu que le film est encore en salle, mais là où la fin de Thalasso, c'était vraiment, j'invoque ce sosie de Stallone qui va buter tout le monde, juste parce que je sais vraiment pas comment finir mon film. Non, là c'est vraiment... Là, c'est bouclé, quoi. Là, c'est bouclé. Il y a une méga surprise à la fin. C'est et puis ça boucle avec tout le reste, donc c'est non, moi j'étais vraiment là, j'ai trouvé la fin vraiment super, et le film ouais est plus drôle, plus ample, même si bon techniquement des fois c'est sale hein.
Ah, c'est très rousse,
c'est très le début et, alors je relisais une interview de première là où Nick Lou disait que c'était des films épuisants à faire parce que déjà en termes de dispositif c'est du multicam, donc il tourne à 5 caméras. Ce qui se voit à fond, parce qu'il y a des scènes où c'est tourné à la GoPro, et je pense notamment, il y a une scène où ils arrivent dans leur villa et après ils vont boire de la piscine. L'image, elle est vraiment numérique au sale. Il y a Luc qui est en train de bronzer sur une chaise longue. Au niveau chromatique de sa peau, ça va pas du tout. Enfin, l'image est vraiment, vraiment vilaine, quoi.
Ouais.
Mais, et puis ce qui tranche avec d'autres moments où tu sens qu'il a pu faire des plans un peu plus léchés et où. Je pense au tout le début aussi qui se passe dans l'appartement de Michel du 13e. L'image est lavasso grise, vraiment pas très jolie. Donc alors, tu vas me dire c'est pour contraster avec le fait qu'ils sont en métropole et qu'après ça va être les Antilles. Oui, peut-être, mais non, techniquement, c'est pas très très beau.
Ça m'a fait très peur, mais... ça, cette intro. Hein.
Ouais, alors là, pour le coup, on sait pas où ça va.
T'as une espèce de petit théâtre, tu vois, où je me suis dit, putain, il rejoue sur les acquis des films précédents, en fait. T'as Gaspard Noé qui joue son propre rôle, qui lui propose un rôle plus ou moins pornographique, donc ça fait écho aux mésaventures de Michel en la matière. Il y a Françoise Lebrun qui arrive avec Jean-Pascal Zadi avec un doute sur leur relation, tu vois. J'ai trouvé ça pas très drôle.
Non, c'est pas ouf. Et puis le délire avec Jean-Pascal Zadi, est-ce que c'est le vrai JP Zadi ou est-ce que pas? Donc au début tu penses que non, mais finalement il s'appelle vraiment JP, et puis
il a fait des films
dit, je t'ai vu au cinéma. Il y a le délire avec ses dents qu'il a fait redresser. Donc finalement, c'est le vrai Jean-Pascal Zadi. Alors, c'est quoi le délire avec Françoise Lebrun? Il y a le délire de c'est mon neveu, machin, qui est pas expliqué, qui est expliqué, mais mal expliqué. Tu sais pas trop ce que ça vient faire là.
Ça fait sens avec la suite, tout le discours colonial, la suggestion des corps, etc. Mais c'est pas tout, quoi.
Ouais, ça fait un peu convoquer Jean-Pascal Zadi pour qu'il pose la question de pourquoi il n'y a pas assez de noirs dans tes livres. Bon, qui donne pas lieu à la meilleure blague du film avec le quiproquo, c'est tu trouves que mes livres sont pas assez noirs? Bon,
c'est nul.
Ça fait juste, c'est le premier noir qui va rencontrer dans le film et qui va lui soulever des problèmes qu'éventuellement on peut trouver dans son œuvre. C'est pas super abouti.
Qu'il choisit de ne pas adresser du tout. Au point où il va être complètement mutique dans la dernière partie du film avant de sortir une dernière connerie dans la fameuse scène de fin.
Dans la surprise.
Mais c'est ça qui est super aussi, c'est qu'il parle pas pendant un grand moment et mais tous les autres personnages disent Michel reparle. Putain, qu'est-ce que ça m'a fait rire aussi.
Oui, ça, c'est le premier truc que tu m'as envoyé quand je t'ai dit que j'étais sorti du film. Tu m'as envoyé un gros Michel reparle. C'était beau.
Mais voilà, il arrive à la fin du film et il développe un propos, on va dire construit à quelqu'un, et c'est pour dire une énorme connerie à la Welbeck qui sortirait en interview avec Onfray, tu vois quoi.
Ouais, c'est ça.
Bonjour, je n'ai rien appris de mon histoire, mon aventure quoi.
Non, c'est ça. Mais de toute façon, je trouve qu'il y a... dans la toute première scène de rencontre entre Blanche Gardin et Michel Houellebecq, elle lui dit un truc sur justement qu'il faut qu'il arrête de donner son avis, qu'en gros, qu'il faut qu'il se contente d'écrire des livres parce que son avis, ça ne l'intéresse pas. Et elle dit un truc, elle lui dit « Mon propre avis à moi ne m'intéresse pas. » Et en fait, le film te dit un peu ça, te dit « Ouais, en gros... » ce que pensent les vedettes, on s'en fout. Et surtout, le film, comme le film te présente Michel, soit en état de semi-ébriété, et bon, c'est vraiment poli de dire semi-ébriété, parce que le quart du temps, il est complètement... Soit il est à l'ouest sous Médoc, soit il est bourré, soit dans le film, il est perché, parce qu'il a pris des trucs. Donc en gros, quel crédit apporter à la parole de ce type-là, qui en fait, c'est juste un poivron, en vrai. Tu vois. Donc qu'est-ce que... Est-ce que il serait pas temps de dédramatiser tout ce qu'a dit Michel hors de ses bouquins, vu que de toute façon les trois quarts du temps il est bourré. Donc moi je le prends un peu comme ça. Je trouve que tout le fait, les moments où la parole de Houellebecq est pas du tout sacralisée dans le film en fait. Quoi. À chaque fois il raconte nimpe et on te montre qu'en fait c'est qu'un pauvre petit gars tout chétif qui est pas fichu de mettre son dentier. Tu vois le fait qu'il ait jamais son dentier. Ce qui lui donne cette tête de petit vieux qui fait que t'as l'impression qu'il a 75 ans tout le temps, juste parce qu'il a pas de mâchoire supérieure en fait quoi. et que tout le monde lui dise, putain, t'as pas mis ton dentier, qu'est-ce que t'as foutu de ton dentier et tout. Ça, c'est, pour moi, c'est, ça fait que, ouais, déboulonner la statue du commandeur, quoi. Calmons-nous. Ouais, ok, d'accord, il a dit de la merde avec Michel Onfray, mais après, est-ce qu'il faut le prendre comme ça, ça, chacun.
Après, t'as peut-être dire, oui, mais ce que vous écrivez dans vos romans, c'est une chose, là, ce que vous dites, c'est une autre. Non.
Enfin, moi, oui, on a d'accord. En ayant fait l'exégète de ces bouquins, oui, on sait que c'est pas franchement. Ah, ça se rejoint quand même un petit peu.
Hein. Ah, bah, complètement, oui. Oui, oui, oui.
Oui, bah oui.
C'est... Oh, tu prends Anéantir, oui, il n'y a pas de doute, quoi. Enfin, c'est...
Ouais, on va renvoyer les auditeurs à ce qu'on avait dit il y a 2 ans, là, mais oui, non, on était quand même assez d'accord sur le fait. Quoi. Surtout après, rétrospectivement, moi, m'être réinfligé plateforme. Que mon souvenir était meilleur que, ouais. que la relecture. Ouais.
Oh, mais je suis prêt à parier que c'est le cas de beaucoup de romans de Houellebecq.
Ouais, c'est pour ça qu'on va pas les refaire.
C'est ça. S'il te plaît. Après, c'est ça, je me pose la question aussi. Tu vois, est-ce qu'on peut rire de Michel Houellebecq indépendamment de ça? Non, moi je pense que ça en fait partie. Justement, je pense que ces films me font rire autant parce que justement, Michel Houellebecq est quelqu'un qui est vraiment sanctuarisé de son vivant, qui est vraiment établi comme un énorme penseur. Et moi, ça me fait du bien de le voir là, en petite chose comique, tu vois. C'est pas le côté de le ridiculiser ou de le rendre pathétique, non, c'est de le montrer voilà, tel qu'il est vraiment, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est en ça que je te dis, ouais, je pense que la thèse de Nick Luce, c'est pas... si important que ça, ce qu'il dit à côté. En fait, on devrait pas avoir, comme dit Blanche Gardin, quoi. En fait, ouais, on s'en fout de ce que vous pensez, et puis surtout, le dites pas, quoi. Voilà.
Ouais,
et
puis faites des trucs.
Il le dit dans ses bouquins.
Il le dit dans ses
bouquins. Ouais, c'est ça.
Voilà. Encore une fois. Et du coup, aussi, j'étais très étonné et honnêtement circonspect sur la création du personnage de Blanche Gardin. C'est elle, mais c'est comme Jean-Pascal Zadi, en fait. C'est un espèce de personnage inspiré de sa persona de vedette, mais ils en font une espèce de proto-Karine Viard dans les actrices, bourgeoise, snob, avec un assistant homme à tout faire, qui prend de la drogue à usage récréationnel, mais aussi en côté un petit
permanence.
Peu... un peu chic, tu vois, voilà, en ouais. permanence. Oui, ils font fumer de la DMT, qui est la drogue que prennent les personnages au début de Enter the Void, pour faire la connexion avec Gaspard Noé. Mais oui, du coup, j'ai trouvé ça curieux. J'ai trouvé ça curieux, je me suis dit, ah, oh, c'est un peu cliché. Et en même temps, elle mène ça plutôt bien. Et pareil, moi j'en ai ras le cul dans les films français, dans les comédies françaises en particulier, du passage où on prend la drogue et on fait n'importe quoi et c'est rigolo. Là, je pense que c'est le film qui devrait arrêter ça, parce que c'est tellement fait et bien fait que faut arrêter derrière en fait.
Enfin, je crois la vraie différence, ça c'est un truc que j'ai un peu remarqué, la différence entre les gens qui te parlent de la drogue quand ils en ont pris et ceux qui en ont pas pris. Tu vois. C'est-à-dire que l'argument « je fais fumer un joint à mes personnages de comédie pour que après ce soit le Turbo's Bull et que les mecs fassent n'importe quoi et se mettent à se transformer en kangourou », bon là tu peux être sûr que le mec il a jamais pris de drogue. Il fait ça, c'est...
École, les trois frères, les frères Pétard.
Ouais, c'est ça, voilà. C'est l'école, les trois frères. Les frères Pétard, je le mettrai à part, parce que t'as quand même un délire de stoner qui est vraiment tellement un ovni, en fait, dans la comédie française. C'est 86, les frères Pétard, quoi. Donc, c'est lointain, quand même. Mais vraiment, ouais, les trois frères, typiquement, quoi.
Marche à l'ombre.
Marche à l'ombre.
Un peu.
Ouais, Marche à l'ombre.
Les renards, tout ça. Ouais.
Mais ouais, les renards. Mais même si, c'est pas complètement incongru le coup du bad trip avec les renards dans Marche à l'ombre. Mais les trois frères, ouais, typiquement, ou j'ai pas forcément d'autres exemples, mais bon, on pourra les insérer en post-prod quand on viendra. Insérer ici, comme tu dis souvent, insérer ici la comédie française qui sent des chaussettes. Là, non, c'est pas pareil. Ouais, le délire, enfin, ça va pas devenir le sujet du film. Le coup de la latte de DMT, alors ce qui est drôle, c'est que ça lui fait rien, quoi. Non, mais non. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais ce que vous voulez, mais bon. Voilà, ça, c'est assez drôle. Mais donc, du coup, ouais, ça va pas être un ressort comique du genre. Non, ça fait juste partie de la Zumba généralisée qu'est le film, quoi. Ouais, tiens, ils ont pris de la DMT. Tiens, ouais, s'ils prenaient des champignons, quoi. Mais pour revenir sur la composition du personnage de Blanche Gardin, c'est dans l'interview de première que je relisais tout à l'heure, Nick Lou disait qu'il composait. un peu comme ce que Elise fait dans Lunar Park, quoi, entre ce que le personnage est vraiment, ce que la perception que les gens en ont, et les clichés que les gens qui n'aiment pas plaquent sur la personne, en fait, quoi. T'as ça, ouais, du coup, pour tous les autres aussi, quoi, tu vois. Gaspard Noé, tu le vois 5 minutes, mais ce qu'il raconte, c'est, bah, c'est voilà, c'est, je viens de proposer un film chelou et j'ai pas écrit de scénario. Bon, bah, c'est exactement ce que pensent les gens de Gaspard Noé, quoi. Ah, le mec, il te fait des films de 2 heures sur un timbre poste. C'est complètement barré, il y a un petit peu du cul.
Voilà. Ça, j'avoue, ça m'a fait rire. C'est, il dit, oui, moi, généralement, je suis déjà parti avec des films où le scénario faisait 4 pages. Là, je pense que tu en auras quand même 15. Tu vois, ouais.
Ça, j'avoue, ça m'a fait rire. Plutôt sur 15 pages de scénario. Ok, ouais, voilà, péplum. Mais toi, tu l'avais vu, la série de Blanche Gardin,
oui.
De la part de moi-même, je sais pas quoi, avec ses problèmes de toilette là.
Oui.
Moi, j'ai tenu à peu près 5 minutes avant de faire stop et de me dire, bon, bah, on verra ça plus tard. Et ce plus tard n'est jamais arrivé. Il est déjà, le personnage de Franck est déjà dans la série. Son régisseur, Matoufer, Gopher.
Dans la série, c'est son frère.
Qui a ce rôle-là.
Ouais. Donc,
parce qu'au bout d'un moment, je me suis demandé, mais attends, mais si ça se trouve, ce type est déjà dans la série et a déjà le même rôle de l'assistant perché.
Mais t'as pas ce rapport à la cam, hein, dans la série.
Ah ouais. Non, c'est juste ces problèmes de cabinet, quoi.
Oui, et puis après, ça part sur poétique, enfin, sur une espèce de parodie de développement personnel. Elle devient une espèce d'égérie de quelqu'un, la Casas Nova, tu vois, qui se nourrit de lumière et qui ne fait rien d'autre. Oh. Et du coup, elle tombe malade. Et t'as Louis C.K. qui arrive des États-Unis pour l'aider parce que personne ne veut l'aider, a priori. Voilà.
Ok.
Wow. Elle part dans une parodie, justement, de tous les trucs, bonne conscience contemporaine, etc.
Ok.
Voilà, ouais, elle finit par se marier avec elle-même dans un geste de réconciliation auto-personnelle. Voilà. Enfin, voilà. Et avec Louis C.K. qui fait l'homme raisonnable par rapport à toutes ces circonvolutions woke, disons-le.
Ouais.
Voilà.
Ok, donc non, il n'y avait pas Franck, le gopher perché. Et là aussi, je trouve, t'as un peu une mini-réflexion sur les célébrités... Et sur les hommes de main, alors c'est vraiment ultra vite, quoi. Mais sur les hommes de main des célébrités. Parce que t'as le type qui doit préparer les valises de Michel quand ils sont à Paris, là, celui qui ne peut pas sortir de métropole.
C'est ça.
Tu te demandes si Jean-Pascal Zadi, moi quand je l'ai vu débarquer avec Françoise Lebrun, je me suis dit, bah, ça se trouve, c'est son homme à tout faire aussi, quoi. Bon, après, il se trouve que c'est Jean-Pascal Zadi, donc non. Et puis après, Luc, donc, qui devient l'homme à tout faire de Michel quand ils sont aux Antilles, et le fameux Franck, complètement perché. Et voilà, donc je me suis dit, peut-être que tu as une tentative de mini-réflexion sur ces gens au service des célébrités et qui sont complètement perchés et au service de célébrités qui peuvent rien faire toutes seules et qui sont complètement des handicapés de la vie aussi. Et à qui les célébrités demandent à leurs hommes de main des trucs vraiment qui n'ont rien à voir avec. Futile, quoi, on va dire. Futile. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a une réflexion là-dessus. Bon, après j'ai abandonné l'idée parce que ça. Mais bon, voilà, je me suis dit peut-être qu'on peut poser ça là. Et comme le film pose plein de trucs là,
tiens,
je vous mets ça là, le discours des indépendantistes, je vous mets ça là. Il y a la scène où à un moment elle est interviewée par un journaliste qui fait quasiment les questions et les réponses.
Tu lui parles de France Manon,
auquel elle dit d'abord que ça ne l'intéresse pas de répondre, et puis quand elle se rend compte que le type fait les questions et les réponses, elle décide de lui dire oui. Et après, tu as un extrait d'une émission de télé où tu as un leader indépendantiste qui fait un discours de 5 km de long face à François Fillon.
Oui.
Et à la fin, François Fillon répond, c'est exactement ce que je voulais pas. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il y a un parallèle entre les deux?
Le problème, c'est que
ce que dit le leader indépendantiste à François Fillon est trop... Enfin, j'ai un peu lâché l'affaire super vite parce que le type est... Enfin, vraiment, tu sens qu'il a beaucoup de choses à dire en pas beaucoup de temps, donc c'est assez dense. Hein. Mais je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a un parallèle avec les deux. Mais bon, une fois de plus, c'est un peu plus posé là. D'autant plus que l'intervieweur, qui est un peu Blanche Gardin, passe vraiment du coq à l'âne et passe de France Fanon à Jean-Marie Bigard. Donc, waouh!
Pareil, ça m'a un peu inquiété, ça. Je me suis dit, ah là là, est-ce qu'il est en train de disqualifier justement ce genre de.
Ouais, ce genre de journaliste.
De journaliste, de revendication, en fait. Et non, c'est vraiment pour plus pour jauger, effectivement, la réaction de Blanche Gardin à ce niveau-là. C'est un film qui pose beaucoup de choses là, comme tu dis, avec ce dispositif qui est propre au film que Guillaume Niclou fait avec Michel Houellebecq, mais où, tu vois, sur l'enlèvement de Michel Houellebecq et surtout sur Thalasso, je me suis dit, ouais, bon, il se fait pas chier, il pose la caméra, il attend qu'il se passe un truc magique. Eh ben, c'est typiquement une réflexion de connard, ce que j'avais fait, parce que là, tu vois, force est de constater que non. Enfin, effectivement, l'image est un peu crade, ce qui est très paradoxal, parce qu'on est vraiment dans des paysages paradisiaques, et les personnages n'arrêtent pas de le répéter, et tu vois l'image, et c'est vraiment... tu disais, c'est dégueu, quoi. Mais ce côté rudimentaire de la captation visuelle, pareil. Il fait sens par rapport à la globalité. Mais c'est vraiment voilà, une retranscription du point de vue des personnages, dans leur délire psychotrope et dans leur délire aussi jet-lagué. Et complètement, voilà, c'est pas du tout les mêmes classes, c'est pas du tout les mêmes préoccupations, c'est pas du tout les mêmes visions historiques. Surtout, en fait, là où le dispositif marche, c'est dans une forme de génie comique, quoi. Vraiment. Parce que, effectivement, moi je le disais, Niclou a vraiment décelé ce côté droupiesque chez Houellebecq qui rend n'importe quelle situation irrésistible. Si, voilà, toutes les scènes du quotidien que Houellebecq décrit dans ses bouquins, Niclou détourne ça d'une certaine façon et en fait un matériau comique incroyable. Là où les bouquins de Houellebecq essayent de faire une espèce de mise en abîme. Sur la pauvreté intellectuelle de l'époque, de ses rites, etc., lui arrive à faire quelque chose de très décalé et où, voilà, où il faut bien admettre qu'il a, je sais pas, un œil, une acuité à déceler ce qui va être drôle au montage, à la façon d'agencer les scènes, leur scénographie aussi, qui n'a l'air de rien, mais qui est redoutable. En termes de timing comique, moi, ce film m'a dévasté, quoi.
Et on n'a même pas parlé du concours de sosie encore.
Ouais. Donc, après, je pense qu'il faut pas trop spoiler, mais
non, c'est ça, il faut pas. C'est pour ça qu'on en a pas parlé.
Mais
dire que c'était très très drôle. C'était
oui.
Quand même très 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 drôle.
Oui, oui. Et puis t'arrives dans la situation, ils sont complètement défoncés. Et juste pour résumer, t'as Houellebecq qui subit le truc de A à Z et qui dit j'ai déjà été insulté, mais là.
Ouais, je pense que je vais y aller si c'est pour se faire foutre de ma gueule. Non, merci. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur Niclou, ouais, c'est l'intuition de dire que si t'enlèves le côté dépressif à Houellebecq, ça va être drôle. Mmh. Parce que c'est ça, en fait, quoi. Ouais, c'est Houellebecq sans la dépression, en fait, quoi. Mmh. Finalement, on a décidé que c'était pas si grave, tes histoires de dépression, que ça. Petit boy shape. C'est pas si grave. Un autre grand penseur d'extrême droite. Voilà. Oh là, j'avais un procès. Mais si t'enlèves le côté dépressif du truc, tu te retrouves avec des situations absurdes qui, finalement, peuvent être drôles, en fait, quoi. Mmh. Et c'est sûr que c'était pas évident d'avoir cette intuition-là, et puis bravo à lui de l'avoir eu, quoi, parce qu'on en est quand même au troisième film où on pense qu'on veut des films, mais grosso modo, moi c'est quand même des films qui m'ont fait rigoler, quoi. Même si certains plus que d'autres, évidemment j'ai pas plus trop envie de voir Thalasso, voilà, déjà parce que je l'ai vu plusieurs fois, et que voilà, c'est vraiment drôle de dire que ouais, ce type qui est un peu le symbole de la noirceur contemporaine, dès que tu lui enlèves sa lubie dépressive auto-centrée, direct ça t'en fait une sorte de droupie comique que tu peux transporter d'un endroit à l'autre de l'écran ou de la planète pour faire marrer les gens, quoi. Mmh. Et pour désacraliser aussi l'histoire, en fait, quoi. Enfin le personnage, parce que ouais, je crois que sa thèse, c'est non, on lui donne trop d'importance, en fait. Mmh. Et moi, je vais vous montrer qu'en fait, non. En fait, c'est un petit rigolo qui a perdu son dentier, quoi. C'est vrai qu'il est drôle, son dentier.
Et qui raconte des conneries, mais plus grosses que lui, quoi.
Enfin, ah oui,
encore une fois, ce qu'il dit à la fin, ça n'a aucun... Enfin, si, ça a du sens, malheureusement, mais dans la situation, c'est tellement... Enfin, c'est débile, quoi. Sur Thalasso, il y a la question de Depardieu. J'ai eu l'impression qu'il arrivait à saisir un petit peu du personnage de Depardieu, c'est-à-dire nous montrer quelqu'un qui a eu un vécu tellement extraordinaire qu'il est au-dessus de tout le monde et qui te dit des trucs complètement absurdes, mais qui en même temps lui sont arrivés et qui expliquent sa déconnexion totale du genre humain, en fait, et qui l'ont mené à avoir ces attitudes sur lesquelles on est beaucoup revenu ces derniers temps, et à raison. Mais ça s'arrête là, si tu veux, dans Talasso, et c'était un petit peu le problème, quoi. C'est-à-dire que...
Je pense que la statue de GG, elle est plus difficile à déboulonner que la statue de Mimi, quoi. C'est quand même, je pense que t'as un côté, ouais, il est trop énorme de Pardieu, quoi. La preuve, c'est que, enfin, tu vois, on se retrouve quand même avec une armée de nénettes qui disent qu'elles ont eu des soucis avec lui, et on a quand même un président de la République qui a réussi à botter en touche, quoi, et à te dire, oh non, mais laissez-le tranquille, c'est un génie français. Bah ouais, mais non, quoi. Alors déjà, c'est pas incompatible avec c'est un gros con. C'est un gros goré, déjà, bah, premièrement. Et deuxièmement, alors ouais, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, t'as beau cliquer sur la croix, ne me proposez plus cette publication, moi c'est le Figaro, ça revient. Donc, alors c'est leur photo avec, tu sais,
avec la citation,
de la personne et toute la citation, donc là j'en ai vu une. Alors j'avais dégagé de mes réseaux sociaux le Figaro, il est revenu sous le Figaro Madame, je l'ai dégagé, et là il est revenu sous le Figaro Culture, et donc j'ai vu, avant de le dégager aussi, une photo de Mathieu Kassovitz, autre grand personnage français au-dessus de tout soupçon, et surtout en ce moment avec ses envies d'octogone là, où il disait que en gros Depardieu c'est un ogre à qui on n'a pas dit non, on n'a jamais dit non, et que en fait ça fait trop longtemps que personne lui a dit non, en fait, quoi.
Bah, c'est faux en plus, mais
c'est l'open bar. Alors après, c'est en mode citation, le Figaro machin, je sais pas si Kassovitz a vraiment effectivement dit ça, mais je pense qu'il met un truc sur quelque chose, quoi. Le côté, et c'est pas que propre à Depardieu, c'est propre à pas mal de gens que moi j'appelle des célébrités, les gens qui sont célèbres depuis trop longtemps, c'est des gens à qui ont quelqu'un justement pour faire leur lacet, qui ont quelqu'un pour faire leur valise, qui ont quelqu'un pour aller chercher leur billet de train, etc. Et ça en fait des gens qui sont incapables de vivre normalement, en fait. Puisqu'ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe, puisqu'il y a toujours quelqu'un entre eux et la réalité. Et plus ils sont connus depuis longtemps, pire c'est, en fait, quoi. Alors, évidemment, on va me dire, oui, mais non, machin, il est surresté simple, et bidule, il est vraiment gentil. Et... oui, peut-être. Peut-être qu'on va en trouver 10 qu'on réussit à pas péter les câbles. Oui, il paraît que Catherine Deneuve, elle est super à l'aise pour parler avec les paysans et qu'elle monte elle-même sur le tracteur. Oui, peut-être, pourquoi pas. Mais moi, ce que je vois, c'est quand même les trois quarts des gens... dès que tu leur donnes 40 grammes de célébrité, ça leur fait péter les câbles et ils se croient arrivés, quoi. Donc, le côté difficilement déboulonnable de certaines statues, et Depardieu, typiquement, c'est ça, quoi. Mimi, c'est pas ça. Mimi, c'est 40 kilos tout mouillé, ça se déboulonne assez... Puis la littérature, c'est pas le cinéma, donc du coup, t'as, au niveau passe-droit et délire auquel t'as accès, c'est moindre. Mais ça en fait quand même une célébrité qui est incapable de s'acheter un ticket de métro toute seule, quoi. Donc je ne sais plus où je vais avec cette histoire. mais voilà, les déboulonnages de statut du commandeur sont pas toutes aussi faciles les unes que les autres. Et Depardieu, c'est plus dur. Voilà. Depardieu, c'est plus dur. Mais aussi, Depardieu, bon, Houellebecq, il a quand même dit des trucs super atroces. Mais Depardieu, on en est au niveau du casier, là, ça a commencé à être difficilement gérable, quoi, cette affaire. Entre les armées de nénettes qui ont été violées et les soutiens aux dictateurs à droite à gauche et son amour immodéré de l'argent. C'est même plus est-ce qu'il faut déprogrammer ces films, c'est de toute façon j'ai pas envie de les regarder, donc tu vois, c'est enfin voilà, ça, c'est ce n'est que mon avis sur Depardieu. Après, brûlez-moi, traitez-moi de woke. Si vous voulez.
Toi, t'es pas envie de les regarder, c'est une chose.
Ouais, c'est ça. Après, moi, je suis pas pour.
Le débat d'interdiction tel qu'il s'est joué en Suisse, surtout, c'était la RTS, je crois, qui avait fait part de cette volonté-là. C'est un autre débat. Complètement un autre débat à part entière sur lequel ça va être compliqué de se lancer. Mais moi, j'avais l'impression que dans Talasso, il essayait justement d'effleurer ça, Niclo. Il essayait un petit peu de gratter. Et c'est ce qui ressort aussi de ses conversations avec Houellebecq, de son vécu complètement dingue. Il appelle Stallone, tu vois, entre la poire et le fromage, quoi. Et c'est normal pour lui. Tu vois,
c'est ça, il connaît tout le monde.
Voilà, c'est ce que disait aussi Édouard Baird dans une interview il y a longtemps, en disant Depardieu, de toute façon, il vit sur une autre planète, quoi. Enfin, il prend un jet, il décide d'aller voir un dictateur.
C'est ça. Voilà, c'est ça, enfin, le type a tourné des films avec, avec Robert De Niro, t'étais pas né, quoi. Donc, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire après ?
Et qui est pas du tout, enfin, qui est pas du tout disposé à remettre ça en question. La seule remise en question de Depardieu que j'ai pu lire, c'était l'article du Monde M sur le fameux, enfin, sur le tournage du fameux film de Yann Moix, et où, apparemment, dans l'avion du retour, voilà, Depardieu fait une énième remarque déplacée à une hôtesse. Et regarde Yann Moix, il lui dit quelque chose comme « En vieillissant, tu deviens vraiment un vieux dégueulasse ». Et tu vois, moi, ça m'a fait le même effet que quand je lis, alors je sais plus son nom, mais c'est un mec qui reprend plein de off sur Twitter. Son pseudo, c'est Paul Denton, c'est Nils quelque chose. Enfin, qui s'est fait engueuler d'ailleurs, parce qu'il reprenait des trucs apparemment de journalistes. Ça ne se fait pas. Hein,
Paul Denton, c'est un perso de Brett Easton Ellis, non ?
Tout à fait, dans Les Lois de l'Attraction.
Ouais, c'est dans Les Lois de l'Attraction.
C'est Ian Somerhalder dans le film de Roger Avary, tout à fait. Et qui, donc, tu sais, c'est lui qui fait les offs de macronistes qui dit « Ah là, tel ministre ou tel député pense que là, franchement, on va trop loin. » Moi, à la fois, ça me rassure, oui et non, tu vois, parce que ça me fait chier, en fait. C'est-à-dire, mais c'est qui ces gens qui ont une conscience, tu vois ?
Ouais, enfin, les offs contrôlés, c'est un peu...
Voilà.
C'est du off, je te le dis, mais tu le dis pas, mais tu le dis quand même. Ouais, c'est de la com'.
Ouais, c'est juste vrai, un ballon sonde comme un autre, tu vois, quand il
ouais, c'est ça, c'est alors vas-y.
Donc ça ne marche pas. Et Welbeck, pareil, c'est quelqu'un qui n'est pas décidé à se mettre en question autrement que dans ces films-là. Et ces films-là font bizarrement le meilleur travail de déconstruction que j'ai jamais vu.
Ouais, je trouve aussi, hein, franchement.
C'est dingue. Hein.
Ça vaut, ça vaut carrément des heures carrées d'explication, hein, franchement. Juste te dire, ouais, mais non, mais regarde-le. Il n'a pas son dentier. Il est encore sous à 9h du mat. Enfin, s'il te plaît, quoi. Voilà. Et après, est-ce qu'on va aller le mettre sur un fauteuil pour lui demander ce qu'il pense de l'islam ? Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Ni ce qu'il pense de l'euthanasie, ni ce qu'il pense de je ne sais quoi. Non, non. Mais par contre, lui faire prendre de la DMT avec Blanche Gardin, ouais. Ça, on veut bien. Ça, s'il vous plaît, quoi.
Donc voilà.
Mais le côté, non, non.
Mais après, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué pour beaucoup de gens qui partagent, je pense, ta vision de Gérard Depardieu, pour qui voir, ne serait-ce que voir, en fait, un film avec Blanche Gardin et Michel Houellebecq, c'est trop demandé.
Ouais, c'est, alors ça, j'ai entendu ça sur des... alors, bah, Lélo en parle dans sa critique de Libé, qui est une excellente critique, où il dit qu'en fait, il faut être prêt à aller danser la Zumba avec Blanche Gardin et Michel Houellebecq pendant une heure. Et il reconnaît que c'est pas une chose aisée, en fait, quoi. Que c'est pas chose aisée, qu'il comprend que t'as une première posture qui va être celle de rejeter complètement le bousin parce que tu comprends... on ne ferait pas avec ces gens-là. Et il trouve que cette posture-là est vaine, mais que la posture de s'y voterait et faire comme si de rien n'était est aussi vaine, en fait. Quoi.
Oui.
Il faut, pas être dupe de ce qui se passe, mais accepter un certain truc. Moi, j'aime bien le côté faut quand même accepter certains trucs. En fait. Mais je pense pas que le film, tu vois, t'as kiffé le film, maintenant tu vas être d'extrême droite, non, déjà non. Et tu peux avoir un regard sur ce type-là. Moi je vais continuer à lire ses livres malgré ce que j'avais dit. Je ne vais pas les relire, mais je vais continuer à... Alors, les romans, en tout cas, parce que je n'ai pas lu sa justification post-l'affaire Front Populaire, post-le film porno hollandais, j'ai pas eu mon Goncourt.
Ouais.
Il a écrit un bouquin là-dessus qui, paraît-il, est assez ouin-ouin, je suis malheureux. Donc ça, je n'ai pas lu, mais les romans, je continuerai à les lire. Maintenant, tu peux lire Anéantir et en refermant le bouquin, te facepalmer dangereusement et te dire waouh, ouais, non, agree to disagree, quoi. Ouais, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu as dit, quoi. Sans rejeter tout le truc parce que tu comprends, quoi. Non, moi, pour moi, c'est quand même assez intéressant de continuer à suivre ce qui se passe. Maintenant, c'est pas parce que tu suis ce qui se passe que tu adhères aux propos. Hein. C'est pas, j'ose espérer. Hein. Parce que moi, j'ai été élevé comme ça, tu vois, tu peux lire des trucs, même si t'es pas d'accord avec eux, pour voir, ne serait-ce que voir ce que les gens pensent. L'attitude de rejeter en bloc et de te dire « Non, de toute façon, je ne vais même pas en entendre parler », c'est pas... ça me paraît pas super constructif et on va pas aller loin en pensant ça.
Ouais, après tout dépend. Pareil, c'est
faut faire, après, faut faire du cas par cas. Ouais. C'est fort de quoi, mais après je parlais que pour le petit Mimi. Hein. Mmh. Voilà. Puis après, il y en a, voilà, j'aurais pas du tout le même discours sur certaines personnes.
Ah non, non, puis laisser vieillir un bouquin comme Soumission, ça va tourner ouais. Piquette qui pique, vraiment. Enfin, les gens qui ont vu un côté précurseur visionnaire, mais.
Non, mais alors pour le coup.
Encore une fois, hein, on va pas refaire le débat, mais.
Ouais, c'est ça, on en a déjà parlé, mais. Le
au secours, plus, quoi.
Surtout pour Soumission, quoi. Franchement, qui est vraiment un des plus médiocres, quoi. Ouais. De toute façon, on était assez d'accord sur les trois derniers, ça, c'était pas le feu, comme disent les jeunes. De toute façon, on va pas refaire le débat, puisque là. Puisque là, on a rajouté la dépression dans Michel, alors que Guigui l'avait enlevé, donc...
Mais tu vois, ces films-là, pareil, un truc dont on avait parlé, le côté vraiment parodie sociale, sociétale, du monde du show business, etc., qui avait un peu en germe dans La carte et le territoire et qui continue dans Soumission, c'est ce côté fantasy assez marrante, mais beaucoup de gens ont pris au sérieux. En fait, en disant « Oh là là, quand même, il a vraiment une vision. » Alors que moi, j'ai vu de la parodie, tu vois, quoi, le fait que Jean-Pierre Pernaut fasse son coming out dans La carte et le territoire, tu vois, c'est tellement absurde, enfin, c'est tellement grotesque.
Oui, oui, c'est clair.
Je me suis dit « Bah, putain, il a des velléités de satiriste, mais tu vois, de faire de la parodie, et c'est ce que Niclou, je pense, a vu. »
Ouais, mais bah déjà,
il a vu ça. Ouais, et ça arrive un peu dans l'enlèvement, et puis au fur et à mesure, il te déboulonne tout ça. Enfin, de film en film, j'ai l'impression que oui, il le regarde vriller et partir en live. Enfin, je sais pas, c'est peut-être mon interprétation. Niclou va m'insulter disant que j'ai rien compris. C'est possible, m'en fous.
C'est possible. Ouais, c'est non, c'est que la relation qu'il avait avec lui en 2014 a évolué. Mmh. Alors, c'est marrant parce qu'il dit un truc dans l'interview de première, il dit un truc sur les. Sur le fait qu'on vieillit et que les cellules du cerveau vieillissent aussi. Est-ce que c'est pas mot couvert un truc pour dire que l'autre, il a les moins pertinents qu'il y a 10 ans. Peut-être un peu. Mais le côté ouais, sur le vieillissement des cellules du cerveau, je me suis dit, ah, ça serait pas une petite pique pour dire que l'autre, il est en train de virer sachant les chaussettes.
La fin du film tend à le valider. Hein. Je suis désolé, mais...
Mais moi, je dis tout le film. Hein. Ouais. Je dis tout le film. Hein. Il est, il te dit que non, mais lui, enfin voilà. Comme dit Blanche Gardin, ça ne m'intéresse pas de, même moi, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que je pense. Mmh. Et ouais, en tout cas, ouais, non, ce que pense Michel, non. Laissez Michel chercher son dentier tranquille et raconter n'importe quoi avec et soigner sa surdité aussi parce que y a 2-3 gags sur le fait qu'il est sourd dans le film, dont une méprise avec Luc dans le taxi au début. Ouais. Parle de, t'as vu le scandale de la viande en Corse, la viande pourrie en Corse, et l'autre comprend l'avion pourri en Corse. Voilà, on fait 2 minutes là-dessus.
Pas la meilleure scène.
Ouais, non, c'est ça, tu fais, ah ouais, ah, on va partir là-dessus. Non, heureusement, c'est désamorcé assez vite. Mais ouais. C'est un fils de Tchekhov pour dire qu'en fait, il était sourd.
Voilà.
Moi, je trouve que c'est un bon film. Si, une fois de plus, comme dit Lélo, on est capable d'aller danser la Zumba avec Michel et Blanche Gardin, quoi. Ce sera pas pour tout le monde.
Oui.
Moi, je l'ai vu dans une salle où il y avait des gens qui rigolaient beaucoup, 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 mais vraiment très, très fort.
Ouais.
À tel point que je me suis retourné pour voir d'où ça venait et me demander. Parce que ça m'a fait un peu l'effet. Alors après, je surinterprète peut-être les rires de ces gens qui, si ça se trouve, n'y voyaient pas mal et trouvaient peut-être ça super drôle. Mais pendant un quart de seconde, je me suis. Ça m'a fait l'effet des spectacles de Dieudonné après qu'il ait lâché la rampe. Ou dès qu'il dit juif, il y a un tonnerre d'applaudissements dans la salle, et au bout de 3 minutes, t'arrêtes le spectacle parce que tu fais « Non, je ne vais pas regarder ça. » Je ne veux pas rire avec ces gens-là. Voilà.
Oui, oui, voilà.
Leur dithyrambe d'applaudissements dès qu'on dit « Ceux dont on ne doit pas dire le nom » et que tout le monde fait « Ah !» Non, en fait, ouais, bof. Ah, ça sent donc effectivement bien les chaussettes. Je me demandais si les mecs n'étaient pas dans une optique comme ça. Mais
non, c'est possible,
c'est tout à fait possible. Après, j'ai pas identifié clairement si les types, quel mot déclencheur les faisait déclencher leur hilarité, mais non, peut-être que c'était ça.
Danser la Zumba, ça veut pas dire souscrire à, ça veut dire.
Ah non.
prendre tout en considération, savoir que, enfin voilà, Michel Houellebecq n'est pas une personnalité comique sortie de l'éther nulle part. C'est pas Pierre Etex, c'est pas Charlie Chaplin, tu vois. C'est non, c'est drôle parce qu'il est Houellebecq, justement.
Oui,
parce qu'il a écrit tout ce qu'il a écrit, parce que il est une forme d'antithèse de ses aspirations idéologiques humaines et que c'est ce qui rend le truc complètement fou. Enfin voilà. Bref.
Parce que comme dit Blanche Gardin au début. Non, mais quand on m'a proposé ça, vous étiez dans la shortlist du Nobel. Maintenant, vous venez m'aider à présider un concours de sosie aux Antilles. Quoi. Donc voilà, c'est le gap.
Voilà.
Mesurons ensemble le chemin parcouru. Et en ça, ouais, le simple postulat de ce truc-là tend à valider le propos qui est non, ne prenons pas toute cette histoire trop au sérieux. Et en tout cas, cessons d'accorder... du crédit à la parole de ce type, en fait, quoi, qui au fond n'est qu'un petit vieux qui a perdu son dentier et qui cherche sa prochaine dose d'alcool, en vrai.
C'est ça.
En vrai, c'est un peu ça. Voilà.
Merci beaucoup, Mathieu.
Mais je t'en prie, François, ça m'a fait bien plaisir de revenir vers ces sinistres personnages, même si je ne désespère pas que tu me proposes de parler d'autre chose un jour.
Non.
Et cette intégrale Kelly Ricard, alors,
c'est piégé.
C'est... Pour quand, mon François? Bon, bah, j'ai plus qu'à attendre le quatrième volume, hein, c'est ça?
C'est ça. Non, on trouvera d'autres sujets.
Mais oui, je ne désespère pas. Et puis en attendant, je vous suis religieusement et je rattrape comme je peux les films que vous conseillez. Et je conseille à tous les auditeurs de faire ça, puisque le cinéma indien, c'est formidable.
Oui.
Même si on peut prendre des beaux cours de masculinité toxique, puisque j'ai regardé le milieu animal. Oui. Et là...
tant qu'à faire, prendre le...
Ah là.
Autant prendre le sommet. Voilà.
Alors ouais, alors je t'avais dit que j'étais Team Anouk sur le truc, après j'ai réécouté d'autres podcasts qui en parlaient, donc visiblement le réalisateur est un gros troll.
Oui, oui.
Et tout son film est un énorme troll, donc
oui.
La thèse de Dame Anouk ne tient plus trop. Et,
j'aurais qu'un seul truc à dire, et je pense qu'il n'y a que les gens qui ont vu le film qui vont comprendre, c'est...
Ah ouais, le singe. J'ai pas compris cette blague.
Ah mais il y a rien à comprendre. C'est enfin si, c'est sus ma bite.
Je suis un énorme beauf, ouais. C'est ça. Je suis un énorme beauf. Non, le cinéma indien c'est formidable. Merci François.
Avec grand plaisir. Bah merci au cinéma indien surtout.
Ouais. Ouais, mais non parce que ça je savais que ça existait avant que tu te mettes à en parler donc. Mais j'étais plutôt sur des trucs genre Satyajit Ray ou Devdas, mais je savais pas que il y avait de la masculinité toxique et des mecs bien burnés hein, qui voulaient casser des bouches. Et,
il y en a plein.
Il y en a plein, des biens et des pas biens. Voilà.
Voilà. Vous voyez du cinéma français, vous voyez du cinéma indien, vous voyez du cinéma, en fait. Donc ouais, ça existe. Profitons-en.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Tant que ce n'est pas qu'un événement du vendredi soir sur une plateforme.
C'est ça.
Vous pouvez y aller.